midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue à Boulevard 102.1. Bienvenue à l'émission On en jase, votre émission d'actualité du midi. Aujourd'hui, on va être très, très, très local dans la première heure. Éclosion de rougeole en capitale nationale. Notre journaliste sur le terrain, Mathias Turcotte, s'est précipité à la conférence de presse de la direction de la santé à 10h30. Il est avec nous. On va commencer l'émission avec ceci, évidemment. On va revenir sur la chicane Bruno Marchand, Éric Duhaime, sur la rencontre avec CDPQ Infra de respect citoyen hier pour le tramway avec Alicia Despins, notre chroniqueuse municipale. Et Pascal CV nous a préparé un très, 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 très bon dossier concernant les difficultés de vivre au centre-ville. Là, on en entend parler depuis plusieurs années, la diminution des résidents au centre-ville. Je vais d'une estimation, c'est environ 8000 personnes qui vivaient au centre-ville. Puis là, centre-ville, je vais même dire Haute-Ville. Et on est rendu à peu près à 5800 citoyens. Fait que pourquoi c'est arrivé? On va avoir plusieurs réponses avec Pascal CV. Par texto, 418-971-1021 pour nous joindre en studio. 418-780-1021 si vous voulez bien nous lâcher un petit coup de fil. Compte tenu que Mathias Turcotte est là, je vais vous le rappeler, citoyen-commercial-blvd.fm pour contacter Mathias si vous avez un dossier particulier que vous voulez faire avancer et qu'on en jase en ondes. L'émission s'appelle On en jase, pourquoi pas. Notre site web, blvd.fm, c'est notre web radio, c'est nos meilleurs moments qui s'y retrouvent. Notre application BLVD 102.1 disponible sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-la si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous écouter partout où vous allez. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir nos faces en studio. Vous avez un haut-parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD 102.1. On apparaît dans vos oreilles et abonnez-vous à notre page YouTube parce qu'il y a des moments, les meilleurs moments, je dirais, de Boulevard qui s'y retrouvent. Nos podcasts, j'en profite pour vous dire que dès lundi prochain, c'est la série Podcast Grands Événements de Québec avec Denis Gravel qui va débuter sur nos ondes à 19h lundi et disponible sur YouTube dès le lendemain matin. Pascal CV, Mathias Turcotte, vous allez bien?
Très bien.
Yes.
Cool. Il y en a qui vont moins bien parce qu'il y a une éclosion de rougeole présentement en capitale nationale. Pascal, est-ce que tu veux nous rappeler comment tout ça a parti, puis surtout, c'est quoi les cas là, à l'heure actuelle?
Bien, c'était juste une question de temps avant que ça arrive ici dans la capitale nationale. On nous avait renseigné il y a quelques semaines sur cette approche de la rougeole. Hein. Premier cas de rougeole qui a été confirmé, notamment des patients qui avaient consulté à l'urgence au CHUL, qui étaient à surveiller après l'apparition de symptômes. Alors, on a déclaré la maladie présente le 24 mars dernier, ainsi qu'au bloc D de l'urgence du CHUL du 24 au 26 mars 2026. C'est contagieux, c'est important. La santé publique d'y posséder une liste de personnes inscrites au CHUL pour la période précise là, où cette personne-là était entre les murs de l'établissement et on les contacte individuellement. Il peut y avoir d'autres personnes qui ont été en contact avec cette personne-là, fait qu'on doit être très, très vigilant, on doit être vigilant aussi sur nos symptômes, c'est ce qu'on nous demande. La personne aurait été aussi du côté de la clinique Medic-Action sur la rue Bouvier le 24 mars dernier. C'est inquiétant parce qu'il y a plein de personnes qui auraient pu être exposées et c'est ce que a dit la docteure Sarah-Jeanne Pelletier en conférence de presse.
Merci beaucoup, Pascal, pour cet excellent résumé. Mathias, c'était une conférence de presse pas très intéressante et dynamique. C'était quoi? C'était Québec international, hein?
Ah oui, Québec international, on nous a fait la présentation des retombées économiques créées par
Québec international. Tout devait bien international. Aller.
Tout va bien, 1 milliard de retombées économiques c'est pour ça. La ville de Québec, c'est fantastique.
Fait que là, tu t'es dit, comment je pourrais me divertir? Et t'as vu ça arriver, éclosion de la rougeole en capitale nationale. Je te félicite pour ton excellent réflexe, mon chum, parce que t'as fait « Hey, moi, je lève les feutres et je m'en vais là parce que c'est la grosse nouvelle du jour en capitale nationale. Merci d'être sur le terrain pour nous et tu t'es rendu au point de presse. »
Oui, justement, point de presse mené par Sarah-Jeanne Pelletier, médecine spécialiste en santé publique. Puis on nous a un peu expliqué tout. Là. C'est une personne qui a voyagé vraiment, qui l'a ramené ici. Le cas qui a été déclaré depuis le 7 avril dernier. On parlait de visite à l'hôpital le 24 mars, justement. 24, 25, 26 mars. La question est légitime, là, pourquoi cette personne-là avait la rougeole le 24 mars dernier, puis là, c'est juste maintenant qu'on l'apprend. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de détails concernant ça parce que C'est privé. Les dossiers médicaux sont privés, donc pour cette personne-là également.
Mais là, moi, Mathias, la question que je me pose, puis je pense que tous les auditeurs se posent, et je suis certain, Pascal, c'est vous aussi, c'est coudonc, on va-t-il avoir une éclosion monstre dans la capitale nationale?
Ben, puis c'est une question légitime parce que c'est le premier cas depuis 2019. Hein.
Aïe,
fait que ça fait 7 ans maintenant.
Avant la pandémie. On va retenir ça parce que Victor Henriquez veut nous parler dans le caucus. Il remplace Antonine Iaccarini dans quelques minutes de la mauvaise gestion du gouvernement en pandémie qui donne peut-être ces éclosions-là puis cette peur des vaccins.
Puis c'est ça. Ben, c'est... On en parlera un peu plus tard des vaccins, justement, parce que c'est derrière ça, veut pas.
C'est sûr. Là, quand on se dit qu'on a une éclosion en 2026, mais qu'on se fait vacciner au Québec depuis 1970 contre la rougeole, il y a quelque chose qui cloche.
Puis on parle pas nécessairement d'une éclosion parce qu'il y a pas plusieurs cas. Présentement, on est limité à un cas, ce qui est une bonne nouvelle, entre guillemets.
Bien sûr.
Mais est-ce que les risques d'éclosion sont présents? Madame Petit nous dit que oui.
C'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, la rougeole, c'est une maladie là, qui est causée par un virus et c'est extrêmement contagieux. Donc, quelqu'un qui n'est pas protégé contre la rougeole, qui aurait été en contact avec un cas, a quand même là, des chances d'attraper la maladie. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est que ceux qui auraient pu être en contact là, à ces endroits-là, à ces moments-là, de surveiller leurs symptômes et d'aller consulter s'ils développent des symptômes.
Fait que vraiment, mais vraiment important d'aller consulter si on développe des symptômes et qu'on a été dans les endroits nommés. Pascal, peux-tu nous rappeler les endroits justement qui sont où les gens se sont retrouvés?
C'est l'urgence du CHU le 24, 25, 26 mars, puis il y a également la clinique Médica Action le 24 mars en avant-midi.
C'est celle sur la rue Bouvier. Là.
Et le CHU, ça c'était plus 24, 25, 26 mars.
24, les trois dates.
C'est
aux
l'urgence.
Urgences,
exactement. 24 heures sur 24 dans le fond,
c'était ben, on nous a pas donné de période précise, fait que ce qu'on déduit, c'est que si elle était à la clinique Médicaction en avant-midi, c'est probablement à partir du 24 en après-midi, puis par la suite 25, 26. Pour ce qui est des symptômes, c'est bien, c'est fièvre, nez qui coule, conjonctivite, donc rien de précis. Par contre, après quelques jours, potentiellement une ou deux semaines, on peut voir des rougeurs sur la peau apparaître. Donc, il faut vraiment surveiller ça. Durant 21 jours qu'on dit qu'il faut surveiller les symptômes de ce côté-là.
Donc, sans vouloir être alarmiste, guys, si vous êtes retrouvés à Médic Action sur la rue Bouvier le 24 mars en avant-midi, surveillez vos symptômes. Même principe si vous avez été à l'urgence du CHUL les 24, 25 et 26 mars. Il faut stopper ça le plus vite possible.
Oui, puis il y a des gens qui demandent c'est quoi les symptômes? Peut-être qu'on pourrait faire un mini-tour ensemble, les gars, avant de continuer, mais c'est fièvre élevée, signes respiratoires, oculaires, éruptions cutanées.
Oui, exactement. C'est exactement ce que Mathias venait de nous raconter.
Parce qu'il répétait, là.
Puis, c'est ça. La question est, si jamais ça arrive, une éclosion, c'est quoi les risques pour notre société? Du côté de Sarah-Jeanne Pelletier, on précise que c'est surtout pour les personnes vulnérables que ça pourrait devenir compliqué.
Ce qui est le plus inquiétant avec la rougeole, c'est vraiment les personnes qui sont vulnérables. Donc, les complications que j'ai mentionnées tout à l'heure de pneumonie, d'encéphalite, de décès, on les voit plus fréquemment chez les enfants de moins de 5 ans, d'autant plus les petits bébés, les personnes immunosupprimées ou les femmes enceintes qui ne seraient pas vaccinées. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qu'on veut protéger parce que le risque de développer des complications pour ces personnes-là est vraiment plus élevé.
Très, 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 très précis. Et là, Mathias, ça nous amène dans le vif du sujet, la vaccination.
La vaccination, puis c'est un sujet qui semble tabou depuis maintenant quelques années de plus en plus. Là. J'ai envie de dire ici moins qu'ailleurs. Tu te transportes aux États-Unis, on a vraiment eu des grosses vagues anti-vaccins.
Ben là, on a mis au ministère de la Santé, le grand dirigeant de la Santé ne croit pas au vaccin.
Ben, c'est ça. En partant, tu pars pas bien. Non, mais...
C'est ça. Il y a un problème, là.
On nous dit que la cible est environ de 95 % pour les enfants. Du côté des enfants les plus jeunes, là, de moins de 2 ans, on est à 80 %. Donc, on est quand même loin de la cible.
Très loin.
Quand on grandit, quand on arrive vers le secondaire, on atteint finalement 95 %. Sauf que, comme la médecin l'a dit... C'est pour les enfants de moins de 5 ans qui ont un plus grand problème, puis c'est eux qui sont le moins vaccinés. Donc, peut-être accélérer les campagnes de vaccination parce que, comme Mme Petit dit, oui, le vaccin n'est pas parfait, mais il reste efficace.
La vaccination protège très bien contre l'infection. On parle d'une efficacité là, au-dessus de 95 %, mais ça demeure possible quand même de développer la maladie, même si on est vacciné. Le vaccin va quand même offrir une protection. Donc, les gens vont souvent avoir des symptômes qui vont être atténués. Donc, ils peuvent avoir des rougeurs, mais qui vont être moins importantes, des symptômes plus légers.
Honnêtement, faites vacciner vos enfants, guys. Fini le complotiste, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de puce dans votre vaccin. Faites-le vacciner. C'était des maladies qui étaient disparues de la carte. La rougeole, ça n'existait plus. Puis là, ça existe parce qu'on a arrêté de se faire vacciner.
Puis c'est pas juste au Québec. Ça, c'est intéressant parce qu'on dit on a arrêté de se faire vacciner. Puis du côté de la docteure Pelletier, ce qu'on met de l'avant, c'est que oui, au Québec, il y a moins de vaccination peut-être qu'il y a de ça 5 ans, par exemple. On a 80 % là, chez les jeunes enfants. La cible, c'est 95 %. On est 15 % en dessous. Oui, il faut faire plus vacciner. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que le gros problème, c'est qu'à travers le monde, il y a de moins en moins de vaccination, puis ce qui fait en sorte qu'on voit de plus en plus de cas à l'international.
En ce moment, il y a vraiment beaucoup de cas de rougeole partout dans le monde, là. Donc aux États-Unis, au Mexique, un petit peu partout dans le monde, il y a vraiment beaucoup de cas en ce moment. Il y a des grosses éclosions au Canada, en ce moment au Manitoba, il y en a eu une très grosse en Ontario l'année dernière. Donc c'est vraiment une réalité avec laquelle on doit apprendre à vivre parce que là, en ce moment, il y a vraiment beaucoup de cas de rougeole et les gens, ils voyagent, ils se promènent et donc c'est vraiment quelque chose qui peut survenir. Des cas importés comme celui-là, ça risque pas d'être la dernière.
Mathias, on rappelle les endroits, si on a visité ces endroits-là, où il faut regarder nos symptômes et quels sont nos symptômes.
Oui, on parle de l'urgence du CHU le 24, 25, 26 mars, de la clinique Médicaction sur Bouvier le 24 mars en avant-midi. Des symptômes à regarder, fièvre, nez qui coule, conjonctivite ou encore rougeur sur la peau qui peuvent apparaître quelques jours après la fièvre. C'est pas nécessairement en même temps, donc ça se peut que ce soit relié à une fièvre d'il y a de ça une semaine, bien c'est sûr que c'est à surveiller. J'aimerais terminer avec ça parce que là, on a certains questionnements concernant à quel point que ça peut être grave. On n'a pas des données de vaccination actuellement sur la personne qui a le cas. Mm-hmm. Donc, peut-être que c'est une question que certaines personnes se posent actuellement. Est-ce que la personne est vaccinée ou non? On n'a pas de moyen de le savoir.
Donc, ça va être à suivre. J'imagine la santé publique, non, vu que c'est individuel, pourra pas nous renseigner là-dessus.
En fait... Dans un certain sens, ils vont être capables. Mais c'est que, de ce qu'on comprend, ils n'ont vraiment aucun moyen de le savoir. Je vous laisse la suite du jugement. Là. Mais, ça fait en sorte que si elle est vaccinée, ça réduit la contagion. Puis si elle ne l'est pas, ça augmente les risques qu'elle a eu de donner la maladie à quelqu'un d'autre.
Ouais. Si on répète, c'est deux vaccins, hein, si jamais pour les enfants, on a donné une dose. Des fois, on oublie ce genre de choses-là. C'est pas notre calendrier, c'est deux doses. Et peut-être aussi vérifier votre propre carnet de vaccination. Quand on le fait, c'est dans les premiers mois de notre vie. Fait que peut-être qu'on le sait pas aussi.
C'est de 12 à 18 mois qu'on vaccine des enfants pour la rougeole.
Mathias Turcotte, t'es toujours là pour nous sur le terrain. Merci infiniment pour ton excellent travail. On va nécessairement te réentendre dans le retour tout à l'heure. Merci, mon chum, d'être allé là. À
ça
la
fait
sauvette.
Plaisir.
Un très, très grand merci. Pascal, avant de passer au caucus, en manchette, s'il vous plaît.
Oui, bien là, c'est sûr, on parlait de la rougeole. Ça vient être important dans la capitale nationale. Autre chose qui est importante à mentionner, c'est pour le pont de Québec, une nouvelle phase de travaux jusqu'en décembre. Alors, on en parlait cette semaine et on réitère. Donc, le nouveau chantier va s'échelonner d'avril à décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé dans les dernières minutes la Société fédérale des ponts Jacques-Cartier, Champlain et incorporés. Alors, c'est des travaux qui visent les renforcements d'éléments d'acier, le nettoyage de la peinture, les contreventements de la travée qui est au-dessus du fleuve Saint-Laurent du côté de Lévis. Ça va être fort achalandé, ça va être fort difficile. C'est un contrat de 19,8 millions qui a été attribué à la firme de génie civil Stellar Construction Inc. Également, dans l'actualité aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle de ce manque de procureurs de la Couronne qui est criant et ça a été dénoncé par l'Association des procureurs en poursuite criminelle et pénale. Puis c'est important, et c'est cité par le Journal de Québec parce que Finalement, on comprend qu'il y a des gens qui ne sont pas jugés, qui devraient l'être, juste parce qu'on manque de personnel. On dit que les procureurs sont à bout, les procureurs tombent en maladie, qui vont pas bien. Et c'est vraiment le langage qu'on utilise là, et qui appellent en pleurant, qui n'ont pas de ressources. Ça semble être très complexe. 80 % des procureurs estiment que leur charge de travail est devenue trop lourde et qu'elle ne fait qu'augmenter depuis 2 ans.
Sur le BLVD.fm, dans le Point de Max, Maxime Larouche et Catherine Bachand se sont entretenus justement avec Guillaume Michaud, le président de l'association. C'est à réécouter sur BLVD.fm.
Il y a également une nouvelle importante sur les 50 millions de dollars qui sont investis pour remplacer les 160 suspentes du pont Pierre-Laporte. C'est Radio-Canada qui en parlait. Alors, on est beaucoup dans ça, dans les transports, les réparations. On a parlé aussi d'un homme de la cinquantaine qui a été blessé dans une agression armée à son domicile la nuit dernière. Alors, des individus cagoulés qui se sont introduits dans la résidence, qui ont attaqué le propriétaire avant de prendre la fuite. Puis moi, j'ai fait des appels aux policiers ce matin concernant ce dossier-là. Donc, j'ai un ajout à la nouvelle. On est en augmentation de genre d'introduction par effraction. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il ne faut pas avoir peur personnellement.
Non, non, non.
C'est souvent lié à des gens qui se connaissent. Dans ce cas-ci, bon, il y aura enquête, mais quand même.
Parfait. Merci pour l'information complémentaire.
Peut-être une petite nouvelle qui va être un peu plus positive. Avant de faire un tour du politique, je sais que Victor Henriquez nous attend. C'est le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui s'est entretenu hier soir avec l'astronaute Jeremy Hansen à bord de la mission Artemis 2. Hein, ils sont sur leur retour vers la Terre. Et après Donald Trump, qui a essuyé un genre de fort malaise avec les astronautes quand il les a félicités. Pour Mark Carney, ça a été une belle conversation. On a parlé de l'importance de la contribution du Canada dans le domaine de l'exploration spatiale.
Très belle conversation qui a débuté en français.
Le caucus. Les vrais...
Le caucus avec Antonine Iaccarini, mais ce n'est pas Antonine aujourd'hui, c'est Victor Henriquez qui frappe en relève. Pascal, t'as quelque chose pour nous?
Ben, on a un breaking news qui vient de sortir, en fait, qui est assez important. C'est 5 personnes qui sont soupçonnées d'être impliquées dans un stratagème de fausse inspection mécanique.
Oh.
C'est dans le cadre de l'enquête sur l'accident qui a coûté la vie à une jeune femme à Vallée-Jonction en 2024. Et c'est sous la plume du Journal de Québec. On a arrêté des suspects entre 31 et 43 ans. Ce matin, à Châteauguay, Salaberry de Valleyfield, Vaudreuil, Dorion, Chersey et Saint-Ours, parce qu'on a une analyse de documents et de saisies qui a été faite. Je vous rappelle, c'est des accusations de négligence criminelle causant la mort dans ces genres de situations-là et de commissions secrètes cette fois-ci. C'est particulier, je lis rarement ce genre de choses-là.
Très, très préoccupant.
Mais c'est un fardier qui s'était renversé sur sa droite, là, qui avait écrasé la voiture d'Alexandra Poulain, 26 ans, qui était décédée de ses blessures. On est encore dans tous ces dossiers de Chauffeur Inc.
Exactement. Donc, on va suivre évidemment le dossier parce qu'on suit beaucoup, beaucoup le dossier des chauffeurs à rabais, notamment via Pascal CV. Victor Henriquez, comment vas-tu?
Ça va très bien, Jeff, toi?
Ça va super bien. Victor, avant de commencer, je veux lire le texto de Jean-Pierre. Il fait toujours nos textos 418-971-101 qui mentionne « Ça, c'est du service public. C'est exactement pour ce genre de nouvelles que la radio publique locale existe. Merci d'y avoir porté une telle attention. » C'est en parlant de la rougeole. Ben, Jean-Pierre, ça nous fait un énorme plaisir. Il faut absolument commencer avec cette nouvelle-là. Et là, Victor, je dois avouer... T'es venu titiller ma curiosité en me disant « Hey, Jeff, tu commences avec la rougeole. Là. Je vais te parler moi aussi de la rougeole parce que je vois ça comme une explication à l'échec pandémique de la CAQ. Explique-moi ta pensée.
Ce qui me titille dans cette situation de la rougeole, qu'en passant, vous vivez à Québec, on l'a vécu à Montréal il y a quelques mois à plusieurs reprises, notamment sur la rive nord où est-ce que je suis, c'est que on dirait que on a oublié que pendant la pandémie, on a frappé très fort sur la vaccination, on a poussé très fort sur la vaccination pandémique. Et ce qu'on regarde dans les chiffres depuis la pandémie, c'est que la vaccination dans d'autres secteurs a souffert un peu de cet effort forcé sur la vaccination. Et ce que je trouve qu'il y a comme échec, puis là, je ne parle pas nécessairement de l'échec d'un parti, mais de l'échec de la santé publique en général, c'est que je trouve qu'on a eu très peu de campagnes de réalignement de notre discours sur la vaccination. Vous rappelez que pendant la pandémie, la vaccination, c'est une vaccination d'urgence d'un vaccin qui, avouons-le, était très peu connu, sur lequel il y a eu beaucoup d'informations, de désinformations, de sous-informations, appelons-le comme ça. Alors que dans le cas de la rougeole, par exemple, on est dans une vaccination qui est extrêmement précise, qui est extrêmement connue, dont les résultats sont probants depuis longtemps également. Alors, je trouve qu'on n'a pas réaligné le discours. Puis là, on se dit, ah mon Dieu, pourquoi la vaccination a baissé? À un moment donné, lorsque tu réalignes pas les discours, ben, tu fais pas le rattrapage nécessaire et tu ne t'adaptes pas à des réalités qui ont changé pendant cette période-là.
Ça se peut-tu, Victor, que ça soit parce que c'était pas payant politiquement et c'était le même gouvernement qui est encore à la tête du provincial, donc eux avaient vu les problématiques, les critiques, les effets négatifs de la pandémie, ils se disaient « on se rembarque pas là-dedans, on gère pas ça ». Malheureusement, ils auraient peut-être pensé comme ça.
Ben, tu sais, ça nous rappelle une chose. Je pense pas que tu es nécessairement tort, mais en même temps, ça nous rappelle aussi pourquoi il ne faut pas que ce soit le politique qui parle de santé publique et bien la santé publique qui parle de santé publique.
Ouais.
Tu sais, à un moment donné, dans la pandémie, on a politisé beaucoup le secteur de la santé parce qu'on était
exact.
Dans une situation où est-ce que, vu que c'était une situation particulière, absolument unique, ça prenait des décisions de très haut niveau. Un peu dans une, comme dans une entreprise, on a besoin que le CEO il sorte. Il ne fallait pas multiplier porte-parole. Mais ça reste que là, la santé, c'est une question de santé. Moi, ce que je veux entendre, c'est des médecins. Mais je veux surtout entendre des spécialistes en épidémiologie nous expliquer comment est-ce qu'ils vont faire pour que dans les prochaines années, on retrouve le taux de vaccination nécessaire pour s'assurer qu'on diminue les risques d'épidémie de rougeole comme celle qu'on peut voir à ce moment-ci. Les risques augmentent. On sait que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Mais moi, je m'attends à ce que les spécialistes en santé publique, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à une nouvelle situation, ils repartent leur campagne d'information parce qu'à ce moment-ci, je pense que l'échec, c'est un échec de communication. On est capable de ramener la communication au bon endroit. Il faut surtout s'assurer de le faire de la bonne façon et de le faire avec les bons constats.
Victor, je me permets de te poser la question parce que tu es justement issu de l'immigration. Il y a un auditeur qui nous écrit, est-ce que ça serait dû également à l'immigration, c'est-à-dire aux gens qui arrivent et que dans leur pays, la vaccination n'était pas coutume et qu'on a du rattrapage à faire?
Ça fait partie des éléments qu'il faut absolument analyser. C'est tout à fait vrai. Hein? Tu sais, je vais donner un exemple ici sur la rive nord de Montréal. Un des enjeux, c'est certaines communautés religieuses. Qui sont contre la vaccination et qui, donc, dans certains secteurs, peuvent amener à des problématiques particulières. Donc, oui, ça peut faire partie des enjeux. Il y a une chose, c'est que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de campagnes d'information nécessaires lorsque quelqu'un rentre au pays, quelle que soit la situation dans laquelle il fait. On doit s'assurer que c'est très clair de dire, ben, regarde, une des premières choses que tu dois faire, c'est de mettre à jour ton carnet de vaccination. Voici comment on fait au Québec. Voici où est-ce que tu peux aller le faire et que ça devienne un automatisme. Hein. Moi, je vais vous avouer, je suis personnellement partisan même d'aller forcer un peu la main sur la vaccination dans certains cas.
Mmh,
et ça, c'est un autre débat. Sauf que je pense que la première étape, c'est de remettre l'information au goût du jour, s'assurer que les gens comprennent aussi. Il y a une différence entre le vaccin de la rougeole et la vaccination qu'on a eue pendant la pandémie. On peut-tu décrocher de ce comparatif-là aussi publiquement parlant? C'est important de le faire. Mais je pense que c'est important que la santé publique vienne s'adapter. Bravo pour les campagnes comme celle d'aujourd'hui. Bravo à Boulevard d'avoir été sur le terrain aussi. Il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. La vaccination est la seule façon d'éviter ultimement des pandémies de rougeole.
Ah, ça, c'est clair. Tu as entièrement raison, Victor Henriquez. Victor, on passe au prochain sujet, c'est-à-dire cette majorité de Mark Carney à coup de transfuge. Je te laisse entendre Marjorie Michel, qui est ministre fédérale de la Santé. Elle va parler de l'évolution de Marilyn Gladue, cette nouvelle transfuge libérale.
Vous savez, si Mme Gladue a décidé de venir nous rejoindre, c'est qu'elle a certainement lu les valeurs libérales et nous avons un caucus des femmes. Ça ne changera pas nos politiques, mais ce sera une voie additionnelle. Puis je pense que, vous savez, tout le monde évolue.
Tout le monde évolue. Même Marilyn Gladue, qui ne l'a pas si longtemps, elle, ce qu'elle voulait, c'est que pour les personnes homosexuelles, on va les envoyer suivre une thérapie parce qu'elles sont malades.
Ben, c'est exactement là où est-ce que je comprends. C'est vrai, tout le monde évolue. Parfait, Madame Michel. Je suis ouvert à cette possibilité. Il y a une chose, par exemple. On est en train de jouer, selon moi, un jeu dangereux du côté libéraux, puis on prend des risques et la question se pose à savoir est-ce que ces risques sont nécessaires. Madame Gladue veut pas. Elle a quand même pris des positions, comme tu le disais, Jeff, extrêmement fortes, que ce soit, par exemple, sur les convois de camionneurs. Elle a pris des positions très fortes. Pendant la pandémie, elle a pris des positions très fortes. Sur l'homosexualité, elle a des positions que je vais appeler même plus que fortes, inacceptables. Donc, à ce moment-ci, la question qui doit se poser, c'est dans cette recherche de la majorité par transfuge, d'ailleurs, rappelons-le, Mark Carney sera le premier ministre à devenir majoritaire en cours de mandat par transfert de députés. Est-ce que dans cette recherche-là, on n'est pas en train de perdre un peu le Nord et de mettre ensemble des gens qui ne fitent pas ensemble d'une certaine façon?
Et j'ai un profond malaise et problème, je ne sais pas pour vous les gars, là, parce que jouer la carte de les gens évoluent, Dans certains cas, c'est possible. Dans d'autres, c'est jouer avec l'authenticité et la façon dont on prend au sérieux l'électorat aussi, la politique et la communication politique. Puis des fois, je trouve qu'on arrive ces bords du manque de respect.
Tu sais, moi, j'aurais voulu l'entendre de la part de Mme Gladue plus que de la part de Mme Michel. Puis, comme je vous dis, à ce moment-ci, je sens qu'on étire du côté des libéraux parce que cette majorité-là est importante. Puis imaginez tout ce qui vient changer. Je pensais à ça ce matin. Regardez, par exemple, sur la question de la négociation de la CEOM, okay? Le fameux accord de libre-échange. On sait que cet accord-là peut se rouvrir à chaque année jusqu'en 2029. Pour Mark Carney, minoritaire, il faut qu'il discute immédiatement de l'accord parce que c'est le seul moment où est-ce qu'il est sûr d'être là. Pour Mark Carney, majoritaire, il peut faire traîner la discussion jusqu'en 2029. Parce qu'ultimement, si Mark Carney est majoritaire demain matin, la prochaine élection, elle a lieu en 2029, pas l'an prochain. Mm-hmm. Imaginez comment ça va changer les choses dans les comités, dans les projets de loi. Donc, je comprends le désir des libéraux d'aller vers ça. Sauf que là, avec Mme Gladue, on franchit un pas vers une députée qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle les conservateurs modérés, mais qui, au contraire, fait partie des conservateurs très assumés.
Ouais.
Est-ce que maintenant, elle aura changé? Elle aura changé au point de dire « j'ai plus de points en commun que je pensais avec ces gens-là et j'ai évolué dans ma pensée ». C'est ce qu'on va surveiller dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. C'est correct d'évoluer dans sa pensée. Il y a une chose, par exemple, elle a quand même été élue il y a à peu près un an avec un parti avec lequel elle était tout à fait à l'aise.
Exactement.
Tout à fait d'accord.
Et je l'ai fait jouer hier, voilà deux mois, elle plantait Mark Carney en pleine chambre des communes sur le fait que dans sa circonscription, trois usines manufacturières avaient fermé et elle nommait Mark Carney le premier ministre de la perte d'emploi.
Ben, c'est exactement ça. Maintenant, on verra qu'est-ce qui se passe. Vous savez, il y a eu plusieurs transfuges. On est rendu avec la cinquième transfuge. Ouais. On verra dans les prochains remaniements ministériels, est-ce que ces gens-là seront montés au Saint-Graal? Ça va être intéressant à voir aussi. Là. Si ces gens-là ont des promotions, on va se demander ont-ils été achetés. Ensuite, on va voir aussi dans leur discours comment ils évoluent. Si Mme Gladue est une exception dans le caucus libéral de gens qui ont une vision un peu plus conservatrice, ce ne sera pas grave parce que, dans le fond, ça va être enterré dans la masse. Il y a encore des rumeurs de transfuge en passant. Moi, j'ai encore trois noms qui seraient sur le point de changer de parti. Je ne peux pas donner les noms parce que je ne veux pas engager ces gens-là.
Non, mais en effet, Victor, moi, j'en ai entendu deux. Il y en a deux qui me sont venus aux oreilles ce matin. Et ce qui m'est venu aux oreilles, c'est que ça se pourrait qu'ils se retrouvent sur la scène ce soir à Montréal au Congrès des libéraux. Donc, imagine le pied de nez à Pierre Poilievre.
Ben, j'entends un peu la même chose. J'entends un nom du Québec. Alors, ne soyez pas surpris si un nom dans tout ça est francophone.
Ouais.
J'entends un nom du Québec dans tout ça. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que il faudra voir si les libéraux attirent des conservateurs modérés qui ne se retrouvent plus dans le Parti conservateur de Pierre Poilievre ou des conservateurs opportunistes qui, comme Mme Gladue, semblent avoir un discours un peu élastique.
Dans le cas de ceux qui sont plus modérés, qui ne veulent pas faire partie du Parti conservateur, ça n'implique pas les prochains propos que je vais avoir. Dans le cas de Mark Carney, dont on parle peu de sa position aussi, d'accepter ce genre de personnes-là qui sont contre lui, contre son parti depuis longtemps, qui ont des positions beaucoup plus conservatrices et même dans l'extrême conservateur parfois. À quel prix tu vends ton âme en politique pour être majoritaire?
Ben, regardez, c'est là où est-ce que le temps nous le dira. Hein? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour Mark Carney, la question économique est la priorité absolue. Pour Mark Carney, cette question aussi de la négociation avec les États-Unis et ce qui l'a amené en politique. Mark Carney ne nous a pas fait croire qu'il s'en venait en politique pour ses valeurs profondes, pour changer le monde. Mark Carney nous a dit « je m'en viens en politique parce que la situation économique est importante et moi, c'est ma spécialité puis j'ai l'intention de régler ça ». Donc là-dessus, j'ai un peu moins de problèmes avec l'espèce de cumul de différentes idées parce que j'ai l'impression que Mark Carney est venu en politique pour faire ça, justement. Mettre ensemble des gens qui ont une même vision économique, puis sur le reste, on peut être différent, mais sur l'économie, on va être à la même place. Ça me rend un peu plus à l'aise. Mais par exemple, il va falloir que ce soit incarné à long terme. Il va falloir aussi qu'on décide que sur certains éléments, il y a des choses qui sont imbougeables. Mais regardez, le simple exemple qui me rend peut-être un peu plus tolérant face à ça, c'est que, par exemple, Mark Carney est un des premiers premiers ministres à aller ouvertement à l'église. Mm-hmm. Le dimanche, on sait que pendant la campagne, il a pris des pauses pour aller à l'église. Il est allé à l'église officiellement.
Ça fait très conservateur.
Il est plus conservateur dans ses façons de penser, mais ça ne l'a pas empêché de dire, je peux bien aller à l'église, mais moi, mes positions sont très claires avec les libéraux sur A, B, C. Donc, ouais, je comprends cette espèce de flexibilité de valeur où est-ce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour militer dans le même parti. Je peux vivre avec ça dans la situation économique actuelle. Maintenant, il y a une chose, faire de la politique ensemble, c'est plus que faire seulement de l'économie. Un congrès comme celui en fin de semaine que les libéraux vont avoir, c'est des moments où est-ce qu'on discute de valeurs, où est-ce qu'on discute de points en commun. Il faudra voir, est-ce que cette députée néo-démocrate, par exemple, qui vient de rentrer chez les libéraux, sera à l'aise à siéger à côté de Mme Gladue? Parce qu'imaginez, si chez les libéraux, il y a des différences, imaginez la différence entre une députée qui était au NPD il y a 3 semaines et une députée qui était chez les conservateurs non modérés il y a 2 jours.
Complètement fou. Et ça m'amène à te parler de la coalition Avenir Québec, parce que le Parti libéral du Canada s'est clairement rendu une coalition. On écoute Bernard Drainville.
J'ai été constant. Depuis le premier débat, à toutes les fois qu'on m'a posé la question, j'ai réitéré. Puis ça n'a pas empêché le fait qu'on a dû continuer, puis il fallait continuer à mettre de l'avant les différences qu'il y a entre Christine et moi. Parce que les différences entre Christine et moi sont réelles. Les gens qui nous écoutent, qui ont une carte pour aller voter, ils ont un vrai choix.
Un vrai choix, c'est ce que Bernard Drainville a dit sur nos ondes pas plus tard que lundi. En 1 minute, Victor Henriquez, est-ce que tu crois à la remontée de Bernard Drainville? Moi, j'ai parlé avec Étienne-Alexandre Beauregard, qui a écrit les discours pour François Legault, qui fait partie des jeunes caquistes. Il est persuadé que Bernard Drainville est en train de chauffer Christine Fréchette. Je suis persuadé, moi aussi, avec Simon-Jolin Barrette, Jonathan Julien et Sonia Bélanger, qui se sont joints à son équipe lundi. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
On connaît très peu le membre de la CAQ. Et c'est le problème qu'on a tous les analystes en ce moment. Lorsqu'on se parle de ce sujet-là, on se dit tous, « Hey, c'est-tu un spin de la gang à Bernard Drainville? » Et à ce moment-là, bravo, parce qu'ils sont extrêmement solides sur le spin, ou est-ce qu'il y a vraiment un mouvement chez les membres? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un mouvement chez les membres, mais je pense que c'est un mouvement qui est un peu trop tardif, honnêtement, pour faire gagner Bernard Drainville. Et par exemple, du côté de Bernard Drainville, on décide d'en faire un spin extrêmement fort. Et là-dessus, on est en train de gagner la fin de la campagne. Simon-Jolin Barrette arrive dans l'environnement de Bernard Drainville lundi. Et depuis ce temps-là, tout le monde se fait spinner sur le fait que Bernard Drainville sera en train de rattraper son retard. C'est maintenant que les gens votent, c'est là que ça se décide. Donc moi, je pense que oui, il y a un mouvement quelconque. C'est sûr que Simon-Jolin Barrette a une influence dans ce parti-là. C'est sûr que le fait que les gens entendent que Bernard Drainville est peut-être en train de revenir, ça donne le goût à des gens de dire « Hey, je voterais-tu pour lui? » Mais je ne pense pas qu'on rattrape une campagne aussi longue que celle-là en une semaine. Et si Bernard Drainville avait eu ce momentum-là il y a 3 semaines, ça aurait été différent. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est trop peu, trop tard. Puis je m'attends à ce que dimanche, ce soit Mme Fréchette qui gagne. Si je me suis trompé, c'est bien correct parce que ceux qui connaissent le membre caquiste par cœur en ce moment sont extrêmement rares. Et je ne suis pas sûr qu'ils sont si nombreux que ça.
Moi, j'y vais avec un 55-45. Christine Fréchette, la remontée ne se conclura pas. Pascal CV, tu y vas avec quoi?
Mais j'ai goût de faire différent parce que vous êtes vraiment beaucoup dans le Fréchette, dans votre analyse. Pourquoi pas un genre de 51 Bernard Drainville?
Oh, ça
c'est quelque
malade.
Chose de super serré parce qu'on va se faire prendre dans un angle qu'on n'était pas prêt.
Moi, je le veux, Bernard. Je veux un débat Bernard contre PSPP. Je veux ça. Victor Henriquez, ta prédiction?
Moi, je vais y aller avec Christine Fréchette à 59-60% environ.
59-60%. Hein? Excellent. On se reparle de tout ça la semaine prochaine. De toute façon, Victor, tu vas faire partie de notre émission spéciale, je le répète, dimanche à compter de 15h sur nos ondes. Jeff Fortin, Antonin Iaccarini, Mathias Turcotte qu'on envoie à Drummondville. Victor, tu vas venir nous parler des enjeux pour la région de Montréal. Donc, tu vas faire partie là, justement de cette émission. Merci beaucoup d'avoir frappé en relève de Antonin Iaccarini.
Grand plaisir, gang, à bientôt.
Salut, Victor. Victor Henriquez, qui remplace Antonin Iaccarini dans le segment Le Caucus, qui est disponible du lundi au jeudi à On en jase de midi à 12h30. Pascal?
Jeudi 9 avril, c'est aussi une grande journée parce que ça se déroule en direct en ce moment et c'est depuis quelques heures maintenant. C'est le public qui est invité à rendre un dernier hommage à Roger Brulotte. Hein?
Okay,
c'est
oui.
Au stade IGA, donc célèbre commentateur sportif. Il est exposé en chapelle ardente dans l'ancien domicile des Expos de Montréal et il y a déjà beaucoup de gens. Donc, c'est entre midi et 19h que les gens peuvent aller faire leurs adieux.
Oui, et tant qu'à être dans les sports, ce soir, très gros match pour la première place de la division Atlantique, alors que le Canadien de Montréal reçoit le Lightning de Tampa Bay. C'est à 19h et c'est sur les ondes de RDS. stress. Dans un instant, à Boulevard 101, à l'émission On en jase, on va voir Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale. On va parler de cette chicane entre Bruno Marchand et Éric Duhaime et également de cette visite de respect citoyen dans les bureaux de Tram Cité pour rencontrer CDPQ Infra. Et Pascal, tu vas nous parler des difficultés de vivre en ville.
Oui, dans le Vieux-Québec, toute la Haute-Ville, finalement, il y a plus de problématiques qu'on pense. Il y a des gens qui quittent le quartier. Déjà, on se demandait s'il y avait trop d'Airbnb. Déjà, on se demandait s'il y avait trop de rénovictions. On se demandait où étaient les stationnements. Qu'est-ce qui va arriver avec le Vieux-Québec?
Exactement. Donc, dossier 2, très bon dossier à suivre dans un instant, Boulevard 102.1. Émission en jase, ton émission d'actualité. On couvre tous les dossiers, surtout les dossiers locaux. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire avec la rougeole. Mathias Turcotte qui s'est lancé à la conférence de presse à 10h30. On vous a fait le dossier complet en début d'émission. Ça sera disponible sur le blvd.fm. Et de toute façon, on va vous informer à chaque bloc manchette. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire avec notre chroniqueuse politique en politique municipale, Alicia Despins. Et on va le faire également avec Pascal CV, qui a un dossier sur les difficultés de vivre en ville. Avant de passer à ces deux sujets importants pour nos auditeurs, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité? Il y a la rougeole, entre autres.
Oui, bien, c'est ça. Mathias a couvert le point de presse ce matin à leur éclosion ici à Québec. Bon, éclosion, c'est pas le bon mot, mais quand même, un premier cas, la santé publique de la capitale nationale a décidé d'en faire un point de presse parce qu'on confirme un cas de rougeole. Ici, on invite, entre autres, des patients qui ont consulté l'urgence du CHUL en mars, donc entre le 24 et le 26 mars dernier, surtout au bloc D là, de l'urgence du CHUL, à regarder s'ils ont des symptômes. On demande aussi aux gens qui sont allés faire un tour du côté de la Médic, la clinique Médic Action sur la rue Bouvier au 24 mars dernier de faire la même chose. On a une liste de personnes qui sont inscrites pour le CHUL et on les contacte individuellement en ce moment, mais il y a plusieurs autres personnes qu'on peut avoir oublié dans la loupe. Mmh. Alors, c'est à elle peut-être de se poser la question. Taux de vaccination qui est un peu en baisse hein, au niveau de la rougeole. Donc, pour les enfants de 2 ans et moins, le taux de vaccination qui est seulement de 80 %. Le taux visé, c'est 95 %. On rappelle que c'est la façon de se prémunir, en fait, et de faire attention à ne pas contracter la rougeole. L'affaire est qu'on peut la contracter quand même, mais les symptômes sont moins intenses. Alors, voilà pour la capitale nationale. Gros dossier. Je pense que c'est le gros dossier des dernières heures. C'est au sujet de la collision mortelle à Vallée-Jonction. On apprenait qu'il y a de fausses inspections mécaniques qui ont été découvertes. Alors, 5 personnes qui ont été arrêtées ce matin entre 31 et 43 ans du côté de Châteauguay, Salaberry de Valleyfield, Vaudreuil, Dorion, Chercy et Saint-Ours pour cette enquête sur l'accident qui a coûté la vie à une jeune femme de 26 ans en décembre 2024 du côté de Vallée-Jonction. Les 5 hommes pourraient faire face à des accusations de négligence criminelle causant la mort, commission secrète aussi. Alors, je vous rappelle, c'est le fardier qui s'était renversé sur sa droite, qui avait écrasé la voiture d'Alexandra Poulain et qui en était décédé. Le chauffeur est déjà accusé, mais là, on se rend compte de cette nouvelle information. Le chauffeur, lui, doit revenir en cours le 8 mai prochain, mais ça s'ajoute, là, on aura certainement d'autres choses à suivre dans le dossier. Pour le tramway, il y a des portes ouvertes pour répondre à vos questions, aux questions des citoyens, surtout, finalement, sur les parcours affectés du RTC, comment est-ce qu'on va se mouvoir cet été, la gouvernance, les travaux publics, les entraves, les arbres. Alors, les citoyens vont pouvoir poser toutes leurs questions. Et ça, c'est à un endroit en particulier, c'est à l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy. C'est sur la route de l'église. Et il y a des représentants de la Ville de Québec, de CDPQ Infra, du réseau de transport de la capitale, qui vont être sur place de 14h à 20h. Alors, on est là, on veut offrir des réponses aux citoyens.
Oui, c'est très facile d'accès, autant en autobus qu'en voiture. Il y a un stationnement souterrain. Et Mathias Turcotte, notre journaliste terrain, va aller faire un tour tout à l'heure et va nous revenir avec un dossier complet dans Marceau le matin, demain matin. Ne manquez pas Marceau le matin à compter de 6 heures.
La députée conservatrice ontarienne Marilyn Gladu a quitté son parti pour se joindre au Parti libéral du Canada. Ça fait jaser. Il s'agit de la 4e défection depuis novembre. Alors, les libéraux comptent maintenant 171 sièges à la Chambre des communes. On est à un petit siège de la majorité. Une nouvelle un peu plus positive.
Oui.
C'est Mark Carney, notre premier ministre, qui s'est entretenu hier soir avec l'astronaute Jeremy Hansen. La mission Artemis 2, qui est à son retour vers la Terre. On a souligné que c'était fascinant de voir un Canadien participer à une telle mission, mais qu'on ne remet pas en doute hein, les compétences canadiennes. Oh que non! On a même parlé de l'importance de la contribution du Canada dans le domaine de l'exploration spatiale.
On va parler aux alentours de 13h30 avec Lani Dufour, notre chroniqueuse économique. Elle s'en va justement au grand rassemblement du Parti libéral du Canada, donc elle est en chemin vient nous voir. Et elle va parler de l'annonce importante pour le port de Montréal fait par les libéraux aujourd'hui. Au sport, je vous rappelle, le Canadien de Montréal joue ce soir pour la première position de la division Atlantique. C'est face au Lightning de Tampa Bay. C'est à compter de 19h sur les ondes de RDS. Et c'est chapelle ardente pour le commentateur sportif que le plus marqué le Québec dans l'histoire, c'est-à-dire Roger Bonsoir, elle est partie, Brulotte, qui est exposée à l'heure actuelle sur le stade IGA. C'est le site où il y avait, à l'époque, le parc Jarry, donc le premier stade dans lequel les Expos ont joué. À la météo, 12 degrés généralement ensoleillé pour aujourd'hui. C'est une superbe journée printanière. 5 degrés possibilité d'averse pour demain. 7 degrés alternance de soleil et nuages pour samedi. Et 8 degrés alternance de soleil et nuages pour dimanche. Il y a de la chicane présentement à l'hôtel de ville, mais c'est pas de la chicane entre le chef de l'opposition puis le maire de Québec. Ben non, c'est entre le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et Bruno Marchand. Et pour en parler, on va rejoindre notre chroniqueuse politique municipale, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, ce qu'a mis la chicane, ce qui a commencé la chicane, c'est cette comparaison de Bruno Marchand.
Monsieur Duhaime qui protège les armes, c'est aussi crédible qu'un alcoolique qui dit qu'il ne boira plus. Là. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Monsieur Duhaime, dans sa plateforme, il n'en parle pas d'environnement.
Bon, il s'est excusé par la suite auprès des alcooliques et il a bien fait parce que j'en connais plein, moi, de gens alcooliques qui ont arrêté de boire puis ça fait peut-être 20 ans puis ils n'ont pas retouché une bouteille. Mais quand tu es alcoolique un jour, tu es alcoolique toujours. C'est d'ailleurs ce que les alcooliques anonymes t'enseignent. Il n'a pas voulu s'excuser auprès d'Éric Duhaime. C'est bébé lala de la part de notre maire de Québec.
Ben, puis, tu sais, on dirait que c'est un peu sa signature ces jours-ci. Là. Il y a quelques semaines, il a traité le maire de Saint-Augustin, Sylvain Junot, d'apôtre de l'inertie sur le même sujet, d'ailleurs. On peut dire que Bruno Marchand a le sens de la formule ces jours-ci. Moi, ce qui m'a fait sourire dans tout ça, c'est qu'il a pris finalement une page dans le livre de Régis Labeaume de... les journalistes qui demandaient « Allez-vous vous excuser? Allez-vous vous excuser? » Finalement, qui s'est excusé, c'est ça. Auprès des alcooliques et non pas auprès d'Éric Duhaime, vous vous souviendrez peut-être de la saga avec Steven Mélenchon que Régis Labeaume avait traité d'autiste.
Oui.
Et finalement, Régis Labeaume s'est excusé auprès des personnes autistes. Donc, il y a beaucoup de belles comparaisons à faire avec tout ça. Et Bruno Marchand, qui est la personne qui a fait campagne quand même sur le fait qu'il allait changer de ton, qu'il ne serait pas justement comme Régis Labeaume à avoir des chicanes publiques comme ça puis à traiter les gens de toutes sortes de choses. On est loin de ça.
C'est le mandat fort qui fait ça? Parce que tu sais, Régis Labeaume a toujours eu des mandats forts, fait qu'il pouvait s'en permettre. C'est le fait qu'il y a 18 conseillers puis il a été élu à près de 50% qui fait en sorte que, bof, quand même, je dirais ça, le monde est derrière moi?
Ah ben je suis certaine que ça prend une grosse place là-dedans. Le mandat fort, la majorité, le deuxième mandat aussi, hein. Faut dire que bon, t'es peut-être plus à l'aise là, dans tes pantoufles à l'hôtel de ville, puis tu peux tu sens peut-être pouvoir t'en permettre un petit peu plus. Je pense aussi qu'il est tanné de parler d'armes, il est tanné de tout ça. Fait que peut-être que la patience diminue. Mais malheureusement, ce genre de prise de bec-là, ben c'est pas constructif. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça met l'attention sur justement la coupe d'armes, exactement ce que le maire veut pas qu'on mette l'attention en ce moment. Puis je pense que les gens de Québec, oui, veulent quelqu'un qui est capable d'être en désaccord sur la place publique, qui parle fort, qui est solide, etc. Mais actuellement, ces prises de parole-là, c'est stérile, c'est vide de contenu, l'entièreté de cette chicane-là. Puis la réalité, c'est que s'il y avait des élections aujourd'hui, ce serait quoi, 4-5 députés là, conservateurs qui seraient élus à Québec là, avec qui Bruno Marchand devrait travailler. Fait qu'ils se donnent vraiment pas de chance pour que ça fonctionne tout ça si finalement ce scénario-là se concrétise lors des élections générales à l'automne. Là.
Qu'est-ce qu'il devrait faire pour rétablir la situation en ce moment? Parce qu'on sent que tout le monde est un peu là, au bout du rouleau. On sent que tout le monde est un peu échaudé. La patience, tu l'as dit, mais ça fait partie de la politique. Maintenant, à se demander ce qu'on peut faire actuellement.
Bien, moi, je pense que ça ne coûte rien. Puis, il ne va pas perdre en crédibilité de s'excuser auprès d'Éric Duhaime. La solution à tout ça, finalement, c'est de s'élever. Tu sais, Éric Duhaime, il lance des affaires, espère une réaction, il réagit un peu comme des enfants dans une cour d'école, là. Tu sais, les enfants qui se font écœurer le plus parce qu'ils réagissent, là. Fait que là, c'est un peu ça, c'est un peu cette dynamique-là qu'on constate. Éric Duhaime, il voit qu'il est capable de faire les manchettes dans les médias en faisant réagir Bruno Marchand.
Il connaît très bien les médias. Il sait très bien comment ça fonctionne. Il a été lui-même un agent commentateur de tout ça.
Il tire sur les bonnes ficelles, pèse sur les bons boutons, puis il y a la réaction là, qu'il souhaite. Là. Fait que s'élever, moi, c'est ce que je pense que Bruno Marchand devrait faire, s'élever, ne pas répliquer directement à Éric Duhaime, mais plutôt revenir sur son message principal qui est que le tramway va de l'avant, qu'il y a des travaux, que oui, il y a des arbres qui vont être coupés, mais qu'éventuellement, ben, ça va mener à un système de transport structurant au bénéfice de tous. Rappeler son message principal plutôt que de tomber dans le piège que Éric Duhaime lui a tendu et dans lequel il est tombé.
Au piège dans lequel il est tombé, c'est avec notre collègue Taïeb Moala du Journal de Québec où il lui a reproché d'avoir écrit un article comme quoi il était en vacances à Paris avec sa conjointe. Cependant, je veux te faire entendre, c'est un 12 secondes, c'est une vidéo postée sur le média social de Bruno Marchand. Ça parle de la nouvelle fromagerie au Trécarré et c'est le lundi où il était à Paris.
Il y a une effervescence, la boutique est pleine. On ose voir grand. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le secteur ici. On a plein d'idées en tête. Là, ce n'est que le début de notre aventure.
Je suis certain que les gens dansent comme moi en studio présentement. Mais tout ça pour dire, Alicia, Bruno Marchand écrit... Voici la fromagerie que nous avons visitée ce matin, que nous avons accompagnée avec notre fonds économique. Il avait fait une vidéo la fin de semaine aussi comme quoi je suis à Québec aux travaux du tramway. Il était à Paris. Taïeb Moala, il a fait une bonne job. Il a fait à croire qu'il était à Québec quand il était à Paris. Zéro transparence.
Bien, puis l'article de Taïeb Moala, c'est vraiment, c'est du bonbon à lire ça, là. Vraiment très bien écrit. Moi, j'avais l'impression d'être à la conférence de presse. On dirait que je voyais la scène dans ma tête, là. Faut vraiment aller lire ça, absolument. Puis, tu sais, ce que tu dis, ce que tu exposes, ce genre de critique-là, c'est facile à éviter, là. Il ne s'est pas donné de chance de justement pas donner l'impression qu'il cachait son absence, que c'était opaque, qu'il n'était pas dans la transparence, etc. On dirait qu'il a quasiment fait exprès. T'sais.
Ben c'est ça, t'sais, si tu veux pas. Ben oui, puis là.
De savoir, mais il devait le savoir, il devait le sentir.
C'est clair, puis là, il dit ouais, mais là, c'est un cadeau que j'avais reçu v'là 10 mois. Fine. Je suis maire de Québec aujourd'hui. J'ai reçu un cadeau v'là 10 mois. Je vais aller devant un journaliste. Je vais dire, hey, vous savez quoi? Je vais rater un conseil municipal. Puis malheureusement, là, ça vient après la mission en Alberta parce que la mission en Alberta, on n'a pas pu choisir les dates. C'est un cadeau que j'ai reçu de ma blonde de v'là 10 mois. M'en va à Paris. J'ai le droit à ma vie privée. J'ai le droit à mes vacances. Sorry, j'ai justement une vice-maire pour ça. Merci, bonsoir. Il n'y a pas de polémique.
Puis c'est ça qu'on dit aux enfants, on dirait que je parle beaucoup d'enfants aujourd'hui, là. Mais tu sais, on dit aux enfants que quand ils font une gaffe ou quand ils font une erreur ou quand il y a quelque chose, bien que s'ils l'assument puis qu'ils le disent puis qu'ils s'excusent, bien il n'y en aura pas de conséquences, il n'y en aura pas de problème, tu sais. Fait que là, mais plutôt que de faire ça, quand tu caches l'erreur que tu as faite ou la gaffe ou quoi que ce soit, bien c'est là que ça prend de l'ampleur puis ça devient disproportionné. Parce que là, on n'est plus en train d'accuser Bruno Marchand d'avoir manqué un conseil de ville. Je pense pas qu'il y a tant de gens qui en veulent tant que ça. Non. Le maire prend des vacances. Une fois de temps en temps, il manque un conseil de ville. C'est correct. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Là, on le critique sur le fait d'avoir tenté de cacher le fait qu'il était absent, d'essayer là, à travers ses médias sociaux de faire comme s'il était encore à Québec. Puis le « nous » que tu as dit tantôt, là, nous annonçons,
exactement.
Le « nous », ça implique la personne qui parle. Il n'y a personne qui comprend le « nous » au sens de l'équipe ou de la ville sans que ça inclue la personne qui parle.
T'amènes tellement un bon point. Je suis allé vérifier ces publications dans cette semaine-là et c'est toujours au « nous ». Tu le vois jamais sur aucune vidéo, mais c'est toujours « nous avons été là ». Regardez, nous sommes à Saint-Roch pour tel commerçant, nous sommes à telle place. Donc, il utilisait toujours le « nous ». Avant de te laisser partir, Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale pour nous, je te laisse entendre Stéphane Lachance sur les coûts d'exploitation du tramway ce matin sur nos zones à Boulevard 101.
Et une question très, très importante pour vos auditeurs qu'on a su enfin, ou en tout cas qu'on a clarifié,
c'est au niveau des coûts d'entretien. Vous savez, la fameuse question, combien ça va coûter entretenir le tramway, ça, il n'y a personne qui en parle. Mais là, on a eu des chiffres. C'est 765 millions pour les 30 prochaines années. C'est 25,5 millions par année.
Je veux essayer de, le moins possible de jouer au démagogue avec le tramway. Je veux rester très sur les faits et je sais que tu faisais partie du conseil municipal pendant 8 ans. Ce 25 millions-là va être assumé par le RTC. On le sait, le RTC présentement a des dettes. La dette du RTC va se cibler à peu près à 133 millions à la fin de l'année. Est-ce que tu as déjà vu un document qui nous dit « Ouais, ça va coûter 25 millions pour le tramway, mais au nombre d'autobus qu'on va enlever, au nombre de si on va venir économiser. » Tu sais, c'est la question que je me pose parce qu'on peut se dire « Ah, c'est 25 millions de plus, mais il va nécessairement avoir des économies qui vont être faites. »
Hey, je peux pas répondre à cette question-là. Quand on était dans l'opposition, nous autres aussi, on essayait d'avoir accès à des documents puis avoir accès à davantage d'informations, puis on n'avait pas nécessairement. Moi, j'ai l'impression que depuis que j'ai quitté le comité exécutif en 2021, ça a pas mal évolué, ce dossier-là.
Vraiment?
Maintenant, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai vu la publication de Respect Citoyen hier sur Facebook qui disait « Nous avons rencontré, c'est des PGU infra. Bon, le Philippe Batani, le premier vice-président, une rencontre agréable et très instructive. Nous préparons un compte-rendu. Nous avons hâte de vous le communiquer. » Et là, on restait sur notre appétit parce que cette publication Facebook-là disait pas grand-chose. Moi, je pense personne ne pense qu'ils vont changer d'idée puis sortir demain Respect Citoyen en disant mais on a compris, on est pour le tramway. Moi, je les ai rencontrés, c'est des PQ Infra dans les dernières années. Ils sont solides. Je suis convaincue qu'ils n'ont pas commis de faux pas pendant cette rencontre-là.
Ah, Stéphane Lachance nous l'a dit là, sur nos ondes ce matin. Il a dit une rencontre hyper professionnelle. Il était précis dans leur approche. Il a vraiment apprécié la rencontre.
Fait que je suis curieuse, moi, de voir quel angle, en sortant de cette rencontre-là, ils allaient prendre, voir si ça allait plaire aussi à leur base, là, selon comment ils allaient s'ajuster. Surtout s'ils commençaient à se montrer un petit peu plus conciliants par rapport au tramway. Là, on dirait qu'ils essayent une stratégie où ils ne critiquent pas plus le projet en tant que tel, en tout cas pas aujourd'hui. Ils vont sur les coûts d'entretien, donc c'est une portion très spécifique du projet. Amener c'est un peu cette crainte-là que ça va coûter très, très cher au quotidien, même une fois que le projet va être fait. Ces coûts d'entretien-là de 25 millions, tu as dit, par année. Hein?
Oui, exactement.
Bon, maintenant, c'est ça que ça coûte d'entretenir un réseau. Là. Donc, je ne sais pas c'est quoi la suite, finalement, de leur message puis de leur stratégie de communication derrière ça pour essayer de faire vivre ça dans l'espace public. Puis que, parce qu'ultimement, si eux autres veulent faire tomber le projet, est-ce qu'on va vraiment faire tomber un projet sur le principe que ça va coûter trop cher à entretenir? Il va falloir qu'ils mettent un petit peu de viande autour de l'os là, pour que ça ait de l'impact, là, cet angle-là.
Je suis clairement d'accord avec toi. Alicia Despins, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te parler de politique municipale. Et d'ailleurs, tu vas nous parler dimanche dans notre émission spéciale des enjeux de la capitale nationale. Hey, on va peut-être avoir un premier ministre de la grande région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, avec Bernard Drainville. Depuis Jean Le Sage.
On va voir ça. J'ai très hâte à dimanche.
Yes. Merci, Alicia. Salut.
Bonne journée.
Salut, Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale pour nous à l'émission On en jase.
Le midi, on en jase.
On continue notre couverture des enjeux locaux. Et on y va avec Pascal CV qui a creusé pour nous. Ces deux articles qui étaient à la une, un du Journal de Québec, un du Soleil ce matin, un qui disait « il n'y a plus de stationnement en ville », un autre qui disait « dès que je deviens une personne aînée, je suis plus capable de vivre en ville, c'est pas adapté pour moi ». Ça m'a fait penser à la chute drastique de résidents au centre-ville. Même le maire Labeaume avait ça comme objectif, d'augmenter le nombre de résidents parce qu'avant l'arrivée des Régis Labeaume, il y avait plus de 8000 résidents au centre-ville. Et là, c'est rendu à peu près à 5800, 5700. Alors, Pascal, tu as creusé ça pour nous.
Oui, bien, la situation dans la Haute-Ville fait beaucoup jaser. Ça, c'est le cas de le dire. Tu le dis toi aussi, mais pour les mauvaises raisons, malheureusement. Fait que c'est pour ça qu'on s'est tablé là-dessus aujourd'hui. D'abord, il y a un énorme problème de stationnement. La circulation est difficile depuis le 31 mars avec les travaux préparatoires pour le tramway.
Ah, vraiment?
Le Vieux-Québec est impacté aussi par une panoplie d'Airbnb, de rénovictions, etc. Mais là, la ville donne pas de nouvelles aux courriels, aux plaintes envoyées. Et ça, ça cause un peu de désespoir.
Un autre manque de transparence, hein, Pascal?
C'est même pas la frustration que j'ai sentie. Entre autres, chez Neil Williams, qui est habitant du Vieux-Québec. Il est propriétaire. Ça fait des années, plus de 10 ans qu'il est là. Puis lui, il nous explique un peu dans quel contexte c'est difficile, surtout au niveau stationnement, depuis le 31 mars.
Ça fait des mois que on est toutes les places côté sur les remparts, c'est pour les résidents. Mais le 30 mars, c'est maintenant pour juste les personnes qui travaillent sur la, pour le tramway. Il dit que les espaces sont déménagés, mais c'est à côté de l'Hôtel Dieu. C'est loin de nous. Mais en plus de ça, donc beaucoup de personnes sans abri là. Moi, je trouve que c'est vraiment dangereux pour les femmes, particulièrement. J'ai une fille de 17 ans, je ne veux pas elle pour sacher là le soir.
Encore l'enjeu sécurité comme on vit dans Saint-Roch, Pascal.
Oui, oui, oui. Puis tu sais, il disait, oui, on nous a permis d'autres stationnements que là où il y a des travaux, dans la rue de la Buade, où il est là, près de ça. Mais c'est loin à pied. Puis ça, c'est une chose, mais c'est surtout pas sécuritaire. Puis comme il le dit pour sa jeune fille de 17 ans, c'est difficile. Michel Mas, qui est du Comité citoyen du Vieux-Québec, corrobore le problème de stationnement.
Le nombre d'espaces sur rue, parce que c'est souvent ça là, que le problème est limité par rapport au nombre de rues qu'on a dans le Vieux-Québec et tout. Donc ça, c'est un problème auquel on fait face, auquel on interpelle la ville depuis longtemps à cet effet-là.
Michel Mas, c'est un gars qui défend énormément le Vieux-Québec. Puis souvent, justement, quand il y a des problématiques qui sortent dans les mesures, il dit « Hey, c'est pas trop pire, c'est pas trop pire. » Fait que pour qu'il corrobore la problématique, c'est parce qu'elle est vraiment réelle, parce qu'il aime son Vieux-Québec, M. Mas.
Absolument. Et il avoue que la communication devrait être améliorée aussi.
Peut-être une gestion un peu plus fine qui pourrait être faite. Et à cet effet-là, justement, la ville a créé une commission particulière pour la mobilité dans le Vieux-Québec. Ces problématiques-là seront analysées par des spécialistes, que ce soit le stationnement, le déplacement à vélo, à pied ou en auto ou même en autobus.
Fait que ça, c'est le fun, la nouvelle commission. C'est vraiment le seul quartier qui va avoir droit à ça. Ils sont, on dirait, dans un genre de projet pilote. C'est pas de même qu'ils le nomment, mais c'est de même que je l'ai senti. Mais ça a pris du temps, puis comme il l'a dit, la communication pourrait être finement améliorée.
Bien, c'est ça, j'allais dire. Ça fonctionne-tu? Parce que je pense là aux commerçants dans Montcalm, là, quand on a parlé avec Marie Lajoie, ouais. la PDG de la Société de développement commercial. Il y en a un groupe de communication, mais il ne fonctionne pas bien. Et là, dans ce cas-ci, ben, je le répète, c'est Raymond Poirier pour les citoyens. Le responsable, c'est le conseiller municipal de Limoilou. Fait que ça ne semble pas non plus fonctionner à son maximum, même si on a mis en place cette structure-là.
Exact. Et c'est un peu la même version du côté de Nadine Westerville, qui est directrice générale chez Entrain de Faubourg.
L'information n'est pas toujours facile d'accès non plus. Donc, par exemple, on a vu avec les changements récents au parcours du RTC, on a bien hâte de voir le tramway arriver, mais en attendant, les changements amènent les changements au trajet amènent des changements d'habitude. Donc, nous, on a dû organiser une séance d'information pour notre clientèle, des gens qui prennent régulièrement les autobus, mais pour qui l'information qui était diffusée par la ville n'était pas suffisamment claire pour eux. Donc, c'est ce genre de situation que nous, on remarque souvent.
Ah oui, les services d'entraide sont tellement importants pour ça parce que souvent, les gens qui ont besoin des services d'entraide, mais c'est des gens qui n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. C'est des personnes nouvellement arrivées qui ne connaissent pas les trajets d'autobus. Mais là, si tu as fait un parcours pendant une semaine puis qu'on te le change tout de suite, mais que tu ne parles pas trop français, ouf, tu vas te tromper pas à peu près là, au premier jour des travaux.
Il y a ça, il y a le fait qu'elle s'occupe de beaucoup de personnes âgées, aînées, qui vivent dans le secteur, qui n'ont pas toutes les ressources technologiques que nous, on a.
Une marche plus longue aussi, souviens-toi, ce que Mathias nous avait présenté.
Des codes QR, des gens qui peuvent vivre avec un handicap. Puis c'est fascinant, parce que moi, ce qui m'a sonné à une cloche, là, c'est au début, elle dit, on a fait une réunion d'information parce qu'on s'est rendu compte qu'elle ne s'était pas rendue.
J'aime ce
aux
que t'amènes comme point, c'est eux qui se sont rendus compte et non pas la ville.
Fait que, super! Félicitations à eux. C'est ce qu'on appelle travailler de façon hyper efficace et vraiment près des gens. Mais tu l'as dit, c'est pas à la ville de faire ça.
Ben, je pense que oui, ce serait à la ville.
Mais la situation peut être comprise, selon elle, selon Nadine Westerville, de DG, je vous rappelle, chez Entraide Faubourg, mais pas acceptée.
C'est normal dans le sens que c'est usuel, c'est quelque chose qu'on remarque constamment, mais c'est pas quelque chose qui devrait être accepté, je crois. L'information, elle est là, mais elle n'est pas accessible pour les personnes qui ont des défis en raison de l'âge, en raison d'un manque de littératie, en raison d'un manque de revenus.
Et puis c'est vraiment la responsabilité d'une ville, ça. S'assurer que chaque citoyen puisse avoir accès à l'information. On manque notre coup du côté de la ville de Québec avec ce que Mme Westwell nous rapporte.
Exact. Et ça peut amener d'autres problèmes encore plus importants. On l'écoute.
La mobilité pour une personne aînée, c'est ce qui lui permet de sortir de chez elle, de rester active, de garder son autonomie. Et on voit beaucoup que quand une personne perd ces enjeux-là, elle doit se tourner vers les services communautaires où elle s'isole chez elle. Et on constate que ça détériore très rapidement sa situation.
Moi, ça, là, ça, Jeff, je peux faire 150 connexions avec 150 sujets. Premier clair. En psychologie, tout ce qui est géronto, là, gérontologie, je le voyais, quand t'enlèves de l'autonomie à une personne aînée, une personne âgée, c'est d'une détérioration constante.
Hey, la dégradation cognitive. Hein? Oh,
physique
my God,
aussi.
Ben oui.
Sociale. Oui. Ces gens-là vont où? Ça veut dire après, peut-être en CHSLD, en RPA, commencent à s'isoler, problème peut-être de santé mentale, problème physique ou à l'hôpital. Entends-tu les ka-ching que je propose?
Ben oui,
on veut que la population vieillisse dans leur secteur, fasse encore une vie active dans nos villes. On a de la misère avec nos ressources, on a de la misère avec notre système de santé, on a de la... Et j'en passe, puis là, ça paraît anodin, mais le fait de pouvoir se mouvoir, se transporter, que ce soit clair, change tellement de choses.
J'entends François Legault pendant la pandémie dire « on va prendre soin des personnes aînées qui ont tracé le chemin ». On est loin de là.
Qui ont construit la société. Oui. Je comprends qu'on n'est pas dans une société asiatique ou sur laquelle on devrait prendre beaucoup d'exemples parfois là, sur la façon dont on traite nos aînés, mais il y a quelque chose là que tu dis quand on ramène toujours au fait d'aller parler aux gens sur le terrain qui peuvent voir des choses que nous, on ne voit pas venir. Ouais. Le simple fait de mal informer ces gens-là des transports peut mener à tellement de choses. Et j'ai parlé à une... excusez-moi, je veux vous faire entendre nos clips de Nadine. Et elle dit que la hausse des loyers, le manque de logement est un autre gros problème constaté, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'aînés qui en souffrent.
J'ai reçu récemment les données de la santé publique, puis on parle, dans la Haute-Ville en général, il y a près de 30 000 personnes qui habitent dans la Haute-Ville, dont 10 000 ont plus de 65 ans. J'estimerais un bon 20 % des aînés qui ont de la misère.
Hey, c'est fou, hein? Parce que là, tu sais, souvent, ils vont vivre de leur pension. Mm-hmm. Des fois, il n'y a pas des gens qui ont travaillé au gouvernement, fait qu'ils n'ont pas une énorme pension. Puis là, pif, le loyer monte dans le piton.
Crise du logement. Ben encore oui, une fois, peu de ressources.
Tu te replaces où?
Tu te replaces où? Nos ressources sont pleines.
Ouais.
C'est pas adapté, des fois, à quelqu'un qui est encore en santé.
Puis tu parlais tantôt d'isolement social. Ben oui. Là, les personnes aînées, là, quand, on est tous pareils. Là, quand on a vécu 30, 40 ans quelque part, là, hey, on veut rester dans ce milieu de vie-là.
Et ça, Jeff, c'est le point sur ma dernière conversation, celle que j'ai eue avec Ludivine Piacente. Écoute, elle m'a réécrit pour nous remercier. Fait que tu vois à quel point ça a été un chemin de croix pour elle, puis que ça a fait du bien d'en parler parce que c'est la fille d'un couple aîné qui est installé dans Saint-Jean-Baptiste depuis toujours. Et elle a dû faire un véritable chemin de croix pour placer ses parents qui vieillissent dans des ressources du quartier. On comprend que des fois, ça peut être plein. On comprend que la population est vieillissante, mais ça fait un changement de rester sur le territoire que tu as connu avec tes amis, avec tes petits quartiers, tes petits commerces. Puis malheureusement, la situation semble être vécue par plusieurs qui risquent même leur santé juste pour rester sur le territoire.
C'est un constat, hein? Les aînés du quartier Saint-Jean-Baptiste ont extrêmement peur de partir de chez eux. Donc, vont souvent attendre jusqu'à la limite, là, à ne plus être capable de se faire à manger eux-mêmes, ne plus être capable de descendre les escaliers.
Ouch!
Là, des enjeux de santé, puis au Faubourg, on voyait ce genre de candidature, je vais les appeler comme ça, ou d'histoire-là, que des gens qui se poussaient vraiment au bout de leurs limites pour pas déménager, pour pas partir, parce que c'était leur repère.
Alors, première chose que la ville doit faire, c'est mieux communiquer aux résidents toutes
encore
les
la
entraves.
Même chose.
On est encore dans communication. Bon, Mme Marchand va sûrement nous dire, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce qu'on doit s'améliorer? Oui. Mais là, ça prendrait des améliorations, Pascal.
Je pense que c'est aussi criant. C'est maintenant.
Ah, oui.
C'était hier. Puis peut-être de parler à tous ceux qui s'occupent des comités citoyens, à tous ceux qui peuvent donner un coup de main si on est plein au niveau de la ville, qu'on ne voit pas le bout. Il y a plein de jeunes qui ont été élus dans l'équipe Marchand. C'est peut-être ça la clé du succès aussi pour les prochains mois.
Tu as entièrement raison. Pascal CV, c'était vraiment plaisant de parler du centre-ville et langue que tu nous as apporté. Merci beaucoup pour ce dossier. Dans un instant, je dirais un des chroniqueurs préférés à On en jase de nos auditeurs. Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui!
Wow, oui! Rémi Villemeux.
Absolument.
Animateur au 99.5 Montréal va venir s'installer avec nous. On va parler de ses élèves qui n'ont pas les compétences pour changer de niveau, mais on force les enseignants à les monter de niveau. On est rendu là dans nos écoles, Pascal CV. On en parle avec Rémi Villemur dans quelques instants. Boulevard 101.
Préviens, on jase!
Oh oui, on jase ici. On jase des enjeux. De vos enjeux principaux, de ce qui vous intéresse. Les enjeux locaux, on vient de faire une grosse tournée pendant une heure de ce qui se passe dans notre capitale nationale. On va jaser de notre système d'éducation dans quelques instants avec Rémi Villemur, un système d'éducation qui des fois en décourage certains, que ce soit par le nombre de courriels qu'on reçoit de nos écoles respectives ou par la façon que le gouvernement gère nos écoles et gère le système d'éducation. Je vous le rappelle, 418-971-1021, c'est le numéro pour nous envoyer des textos. On aime toujours ça vous lire, il n'y a pas de doute là-dessus. On est toujours très, 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 très heureux. Également, blvd.fm, c'est notre web radio. C'est à l'endroit où vous pouvez aller écouter nos meilleurs moments. Notre application BLVD 101 est disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store pour nous écouter partout où vous êtes. twitch.tv/blvd/fm pour venir voir nos faces en studio. Au parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD 101 et on arrive dans vos oreilles. Et la chaîne YouTube BLVD, allez vous abonner si ce n'est déjà fait. On retrouve des excellents moments de Boulevard 101, notamment les caucus avec Antonine Iaccarini. Pascal CV, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité? Je suis certain que tu vas starter ça avec la rougeole, l'éclosion de rougeole en capitale nationale.
Je dirais premier cas de rougeole, puis on veut pas que ça devienne effectivement une éclosion.
T'as raison, je vais trop fort.
Ça a été confirmé. On a eu un point de presse aujourd'hui de la santé publique, de la capitale nationale. Donc, effectivement, un premier cas qui a été répertorié à l'hôpital le 24 mars 2026. Pourquoi je vous donne la date exacte? C'est parce que si vous avez été dans le bloc D de l'urgence du CHUL le 24 mars ou encore le 25 ou le 26, surveillez-vous parce que c'est contagieux. On peut avoir de la fièvre, on peut avoir conjonctivite, on peut avoir des nausées. Il y a plein de choses qui sont reliées à des symptômes dont tu ne t'attends pas. Des fois, tu vas avoir cette fièvre-là et quelques jours plus tard, c'est là que tu vas plaquer, tu vas avoir des rougeurs sur le corps. Allez faire un petit tour pour les symptômes. Et on avertit aussi ceux qui sont passés à la clinique Médic Action sur la rue Bouvier le 24 mars dernier parce que la personne sera allée là aussi. On ne peut pas avoir beaucoup d'informations là-dessus, mais on va en profiter pour parler du taux de vaccination qui déçoit parce que ça amène de sérieuses complications en l'absence de vaccination, dont des pneumonies, des encéphalites. Et faut savoir que ça protège très bien la vaccination. On parle d'une efficacité au-dessus de 95 %. En ce moment, pour les enfants de 2 ans et moins, c'est un taux de vaccination qui est autour de 80 %. On vise 95. On est loin encore. Il manque 15 %. Là.
Sur blvd.fm va se retrouver le reportage que Mathias Turcotte nous a fait en entrée d'émission. Vous l'avez manqué, vous pouvez aller là. Et vous pouvez aussi écouter le retour de Denis Gravel de 14h à 18h. Mathias va venir vous parler justement de ce premier cas de rougeole en capitale nationale.
On répond jamais aux questions sur le tramway. Sachez qu'aujourd'hui, on a décidé qu'on allait répondre du mieux qu'on pouvait. C'est ce que clame la Ville sur les parcours affectés du RTC, les travaux publics, la gouvernance, les entraves et les arbres. Alors, les citoyens peuvent poser leurs questions. C'est où? C'est jusqu'à 20h ce soir à l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy sur la route de l'Église. Il y a des représentants de la Ville de Québec, de CDPQ Infra et du réseau de transport de la capitale qui sont sur place pour vous répondre. On accueille tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de VIP, les curieux peuvent circuler et tout est abordé. Après, écrivez-nous, 88-971-1021. Si vous êtes passé et on n'a pas répondu à votre question, on veut le savoir aussi.
Exactement.
Hein? Alors, c'est d'ailleurs une apparition là, à l'ouverture des portes ouvertes à 14h qu'on a vu plusieurs personnes, faire la file pour poser ces dites questions. Jeff, la trêve de Trump va faire chuter l'essence de 13 cents et le diesel de 28 cents, mais ce sera sur une courte durée. Donc, à partir de vendredi, vous allez peut-être pouvoir voir ça, mais ça sera pas très long. Alors, faites le temps de mettre de l'essence dans votre voiture à ce moment-là. Et je reviens sur la collision mortelle à Vallée-Jonction. C'est un énorme dossier. C'est une énorme annonce qu'on apprend aujourd'hui. Il y aurait eu de fausses inspections mécaniques découvertes. C'est l'accident de 2024 à Vallée-Jonction. C'est le camion qui avait complètement tombé, tangué sur une jeune femme de 26 ans qui était décédée, Alexandra Poulain, donc un fardier. Et ça nous rappelle tous ces problèmes de chauffeur Inc. Hein, qui ont retenu leur permis dans des genres de côtés sombres de la légitimité. Et il faut savoir que c'est 5 hommes qui pourraient faire face à des accusations de négligence criminelle causant la mort, commission secrète aussi, parce qu'ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un stratagème de fausse inspection mécanique. Ils ont été arrêtés aujourd'hui.
Au sport, Canadien Lightning ce soir pour la première position dans la section atlantique de la Ligue nationale. C'est à 19h. C'est sur les ondes d'RDS avec l'ami Pierre Houde. Chapelle ardente à l'heure actuelle. Hommage à Roger Brulotte au stade IGA, le site de l'ancien stade Jarry où les expos de Montréal ont commencé dans le baseball majeur. Donc, c'est un hommage. On voit plein de personnalités s'y rendre, notamment le premier ministre actuel, François Legault. Un bel hommage pour Roger. Bonsoir à les parties Brulotte. On s'en va justement à Montréal rejoindre notre chroniqueur Rémi Villemur. Il est animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 17h, de 18h à 19h et également les samedis matins en compagnie de Jacinthe Varel de 8h à 10h. Rémi, comment vas-tu, mon ami?
Ça va bien, vous deux?
Ça va super bien. Rémi, on en avait entendu parler durant la pandémie, mais c'est quelque chose qui s'est poursuivi après, c'est-à-dire ces élèves qui n'ont pas les compétences pour monter de niveau, mais qu'on dit au prof, « Ouais, je sais que c'est 55, mais mets-y donc 60 pour qu'il s'en ait en quatrième année. » Ouf, on nivelle par le bas, hein?
Ben c'est ça le problème. C'est qu'on nivelle par le bas parce que, puis tu vois, on aurait pu commencer en donnant les bonnes excuses que le milieu éducatif se donne et s'auto-nourrit pour donner un sens à quelque chose qui n'en a pas vraiment. On nous dirait, par exemple, que ça coûte cher, qu'il manque de personnel, que des fois, ça fait juste retarder le processus de l'élève. Mais au fond, ça revient à quoi? Ça revient avec le nivellement par le bas. C'est le résultat qu'on constate sur le terrain. Quiconque est déjà entré dans une classe s'est rendu compte qu'il y avait des élèves qui n'avaient pas rapport là. Je parle évidemment au public, là, au privé, les exigences sont un peu plus soutenues. On peut encore virer des élèves des écoles, les envoyer dans d'autres écoles. Je sais de quoi je parle. J'ai coulé mes maths de secondaire 2, puis il a fallu que je fasse des cours d'été pour rester dans une excellente école privée où mes parents m'avaient envoyé après avoir fait des économies et travaillé comme des chiens. Donc, bref, le problème avec ce système-là, c'est que quand un professeur, à la fin de l'année, recommande à un élève de redoubler et que la direction décide de finalement le faire passer, on pense faire la bonne affaire. On fait plaisir à peu près tout le monde. Hein? La famille de l'élève, les parents de l'élève sont super contents. L'élève est super content aussi. Il peut retrouver ses amis. Tout le monde part, c'est l'été. Les oiseaux cuit dehors. Puis ouf, on s'en va en vacances. Mais le problème, ça recommence 2 mois plus tard. C'est quand on revient à l'école en septembre et je pense qu'on ne sauve pas cet élève-là. On ne lui rend pas un service. Des fois, c'est difficile d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais c'est plus prudent et c'est plus responsable que d'attendre que cette personne-là arrive devant l'inévitable parce que l'inévitable survient. Quelques mois plus tard, quand arrive la nouvelle cadence, parce qu'on passe d'un niveau à l'autre, l'élève constate qu'il n'y a pas sa place dans ce bateau-là.
Rémi, je suis tellement d'accord avec toi et j'ai 2 exemples concrets pour le donner. Un ami de mon plus jeune, Édouard, en 4e année, la prof a dit à ses parents, « Ouais, je pourrais le faire passer. » Ses parents ont dit, « Non, il faut qu'il double son année. » Ben maintenant, au lieu d'être en secondaire 4, il est en secondaire 3. 85-90% de moyenne. Tout va bien pour lui dans une équipe de hockey. La vie est belle. Et un autre exemple que j'ai, c'est dans ma vie personnelle. Mon chum Pascal, il a triplé son secondaire 3. Il est rendu un des meilleurs informaticiens au monde.
C'est parce que le retard que tu prends, tu le prends doublement par la suite quand la matière continue d'avancer au rythme des autres qui, eux, étaient rendus à cette position-là. J'ai pas doublé, moi, mais j'ai eu un prof personnel à un moment donné en maths. Mais je pense qu'on a un problème en communication des fois sur certaines choses. Puis c'était vraiment important pour mes parents parce que c'était cette matière-là qui me donnait du fil à retordre. Puis eux, ils ont dit, c'est parce que si tu traînes de la patte là, puis tu répares pas, mettons, ta jambe cassée, tu vas l'avoir brisée à vie pour la suite des choses.
Oui, puis tu sais, il ne faut pas manquer la cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a un sondage qui a été commandé par le milieu scolaire. On a des statistiques. On sait combien de professeurs déclarent avoir été obligés de faire passer un élève malgré des recommandations contraires. Mais c'est pas, je ne pense pas qu'il faille faire le procès de l'école. Il faut faire le procès d'une société qui nivelle par le bas aussi. Parce que si on a pris cette décision-là, chose qu'on n'aurait peut-être pas fait dans les années 60, 70, 80, ben c'est que la société a changé. C'est qu'aujourd'hui, on pense que quelqu'un peut continuer de maintenir le rythme, même s'il n'est pas prêt à faire ça. Regardez, j'invite les gens à faire un exercice. Vous travaillez à peu près tous donc dans un milieu. Regardez autour de vous. Est-ce que tout le monde a sa place? Est-ce que tout le monde a une responsabilité qu'il est capable d'assumer? Est-ce que lorsque vous faites des parties de Noël, puis qu'il y a des gens que vous connaissez bien, là, que vous savez qu'ils ne sont pas qualifiés pour une job qu'ils ont pourtant, est-ce que vous trouvez ça... La société a changé. On a nivelé par le bas. On a accommodé des gens qui n'étaient pas forcément qualifiés au nom de super belles affaires en passant. Je ne suis pas Dark Vader, là. On a fait ça au nom du bien. Et le bien, ça le dit, c'est bien. Sauf que, regardez, est-ce que la société va mieux? Est-ce qu'on a plus de services? Regardez, dans les villes, la masse de col blanc a augmenté. On a moins de services ou on a l'impression de ne pas en avoir pour notre argent. Pourquoi? Est-ce qu'on a les gens les plus compétents? Est-ce qu'on a des... Est-ce que quelqu'un commet une faute, on le punit ou alors on le vire? Ça arrive de moins en moins. Il y a de plus en plus de droits. On s'en va dans le tribunal administratif du travail, tatati, tatata. On dirait qu'on vit dans une société un peu plus douce, un peu moins dure. Et bien sûr que la douceur, c'est mieux que la dureté. Mais si on veut des résultats, ça prend au moins un équilibre des deux et j'oserais dire peut-être un peu plus de dureté que de douceur.
Moi, peut-être un problème aussi, puis une lumière à mettre sur à quel point on peut mettre une pression sur un enseignant qui veut faire la part des choses là-dedans. Je vous rappelle, en 2025, on a eu un cas à la Commission scolaire des premières seigneuries d'une enseignante qui avait mis la note zéro dans un travail de composition en français à une élève qui avait triché, qui n'avait pas bien fait le travail et qui méritait la note de zéro. Les parents étaient en poursuite en cours supérieur pour 40 000 $ contre le Centre de services scolaires des premières seigneuries. Tu sais, à un moment donné, elle l'a dit, c'était des récidives, je pense. L'élève donnait zéro son temps, son engagement à ses études, puis elle s'est dit, c'est zéro. La tricherie, c'est zéro. Ce n'est pas ton travail. Puis des parents qui poursuivent l'enseignante en disant, elle va faire couler son... Oui, mais il y a des choix qui sont pris aussi. Puis il vaut mieux les pénaliser plus jeunes pour que ça soit une bonne leçon pour la suite des choses.
Oui, puis ce phénomène-là, on le remarque de multiples façons. Moi, je suis assez jeune pour me rappeler qu'à l'école primaire, on n'avait pas de notes, on avait des couleurs. Donc, on nous donnait rouge, jaune, vert et bleu parce que 10%, ça fait mal. Couler, ça fait mal. Dans certaines écoles, dans certains programmes, tu ne peux pas faire couler un élève. On dit non, tu ne le fais pas couler, tu le fais passer d'une autre façon. Puis là, on parlait des niveaux, là, on a commencé la discussion comme ça. Je parle d'examen aussi. Mm-hmm. Tu te dis, mais la vie ne fonctionne pas comme ça, normalement. Ben ça existe, avoir un échec, à moins que la société ait changé.
Moi, je termine.
C'est ça que je me disais. Oui, vas-y.
Ouais, ben non, mais je termine ceci pour qu'on passe à l'autre sujet avec le fait que j'ai 46 ans, je suis plus vieux que vous. Et mon primaire, les profs lisaient les résultats des gens devant la classe.
Là, c'était peut-être pas.
Et au secondaire, il y avait le tableau des notes de la moyenne générale des élèves accrochés sur le babillard. Je retournerai pas là, mais on était dans une extrême et là, on est rendu à l'autre. Je suis d'accord avec toi. C'est autant à l'école.
Mais même les meilleurs devaient être gênés de ce fonctionnement-là. Ils étaient probablement des cibles à se faire écœurer comme étant un génie. Tu sais, les jeunes, c'est méchant.
Non, mais t'as raison. On voyait les nerds puis on les écœurait. Mais moi, en même temps, je suis passé du sportif à 79 de moyenne générale. Vu que ma blonde avait 92 de moyenne générale, j'ai dit en secondaire 5, m'en va te chercher. Puis ça m'a donné 92 de moyenne générale en secondaire 5. Elle a fini à 94.
Elle mérite.
J'ai pas réussi à la défoncer. Rémi, ce dimanche, on va élire une nouvelle première ministre ou un nouveau premier ministre. Et là, tu voulais qu'on joue les trois ensemble à deviner quel candidat les chefs de l'opposition veulent voir à la tête de la CAQ.
Oui, parce que ce sont deux candidats très différents. On l'a suffisamment dit, Christine Fréchette et Bernard Drainville. Donc, peut-être qu'effectivement, en fonction de l'intérêt des autres partis, du destin des autres partis, on a des préférences. Donc moi, je commencerai avec le premier groupe d'opposition, le Parti libéral du Québec. Donc Charles Milliard, à votre avis, je ne sais pas comment vous voulez procéder, je peux donner ma réponse en premier.
Ben oui, on ira à tour de rôle avec la réponse en premier. Donc vas-y pour Charles Milliard.
Donc, qui Charles Milliard aimerait mieux voir comme chef de la CAQ? Je pense que c'est Christine Fréchette, parce que Christine Fréchette bouffe plus naturellement du vote libéral que Bernard Drainville ne le fait?
Moi, j'irais avec Bernard Drainville. Charles Milliard veut voir Bernard Drainville là parce que Bernard Drainville nous l'a dit en entrevue, il y a un côté nationaliste, il dit qu'il représente la frange bleue de la CAQ, donc nécessairement Drainville va être en compétition avec le PQ et Milliard, ça va lui donner des votes gratuits.
Ouais, moi aussi, je pense qu'il va vouloir Bernard Drainville là pour le petit choc là, séparatiste ou pas, mais à la base, j'aurais répondu...
Je pense que j'ai pas été assez clair. Est-ce que j'ai dit Christine Fréchette ou Bernard Drainville? Moi, je pense qu'il préfère que ce soit Drainville, parce que Fréchette lui bouffe du vote.
Ben oui, c'est clair.
OK, on avait peut-être compris le contraire, effectivement. Mais à la base, je pense que tout le monde préférerait Christine Fréchette parce qu'elle va être moins tenace en débat que Bernard Drainville. Continuons sur d'autres observations.
418-971-1021, si vous voulez jouer au jeu avec nous, ça va nous faire plaisir. Avec qui continues-tu, mon Rémi? On va laisser Pascal donner la première réponse cette fois-ci.
Bon, ben alors on va descendre avec, mettons, le Parti québécois. Donc, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon préfère que ce soit Christine Fréchette qui soit la chef de la CAQ, parce que si c'est Bernard Drainville, là, ben, c'est un peu le même principe qu'avec Milliard, mais les rôles sont inversés. C'est Bernard Drainville qui peut bouffer du vote souverainiste, du vote péquiste, en fait, qui n'est pas souverainiste, donc un vote nationaliste qu'on sait qui réside encore au Parti québécois.
Je suis d'accord avec toi et j'ajouterai.
Vas-y.
Le pouvoir de la joute et la façon de débattre de Bernard Drainville. Et à ça, j'ajoute aussi le fait que les deux ont le ton et le sang chaud. Je pense que ça va demander du fil à retordre à Paul Saint-Pierre Plamondon tout au long et ça risque de l'épuiser beaucoup plus.
Vous avez tout dit, les amis. Je me range derrière vos excellentes analyses. Troisième groupe d'opposition.
Bon, ben alors là, je suis dans l'ordre, mais on va y aller avec Québec solidaire, parce que Québec solidaire, ça, c'est particulier. Je pense que c'est peut-être ça qui nous demande le plus de réflexion.
Oui.
par contre, je pense qu'on préfère que ce soit Bernard Drainville, dans la mesure où il y a deux raisons. La première, c'est que si c'est Christine Fréchette qui l'emporte et qui devient la prochaine première ministre, peut-être qu'à l'intérieur de Québec solidaire, on va se sentir mal à l'aise de s'en prendre à une femme, parce qu'on le sait, on est très à gauche et on ne voudrait pas non plus que ce soit mal interprété. Alors là, ça serait difficile d'assumer le rôle de groupe d'opposition. Je vois une autre raison également, c'est que c'est plus utile que la figure soit celle de Bernard Drainville, parce que c'est une figure dite populiste, donc un populisme de droite versus un populisme de gauche. On est dans un écosystème dans lequel serait très à l'aise Québec solidaire.
Oui, puis je jetterais là-dessus la question de l'immigration. Bernard Drainville veut drastiquement réduire les seuils qui va permettre justement Québec solidaire de faire du millage avec leurs partisans.
Je pense qu'ils veulent Christine Fréchette parce que Québec solidaire sait qu'il n'aura pas cherché énormément de votes aux prochaines élections. À un moment donné, il faut être lucide. Ils nous le disent peut-être pas, mais quand même, on a une lucidité habituellement dans un parti et ça se rapproche beaucoup plus de leur façon de faire de la politique. Et souvent, c'est leur vision. Hein? La politique, au moins qu'elle soit bien faite, si ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir.
On termine avec le PCQ d'Éric Duhaime.
Ben, je pense qu'Éric Duhaime préférerait que ce soit Christine Fréchette, parce que si c'est Bernard Drainville et qu'il met de l'avant certaines des mesures dites de droite d'ici la prochaine élection, ben là, il y a des gens qui vont se demander si ce n'est pas mieux de voter la CAQ plutôt que de voter Éric Duhaime. Ça serait plate parce que je pense qu'il faut dire, il faut appeler un chat un chat. Bernard Drainville a volé dans le programme du Parti conservateur du Québec.
Écoute, oui à tout ce que tu dis, Rémi. Ben, dans le sujet actuel, là, dans ce dont on discute. Par contre, moi, je pense, pour connaître les deux hommes, avoir travaillé avec eux dans le milieu professionnel à la radio, ils auraient un grand fantasme de se retrouver l'un face à l'autre dans une question politique. Moi, je pense qu'ils veulent peut-être pas parce que ça amène plus de travail et effectivement, ça peut gruger du vote. Mais les connaissants, là, ils veulent que ça bouge puis ensemble, ils vont le savoir que ça va bouger.
Éric Duhaime veut Christine Fréchette pour les mêmes raisons que Rémi, c'est que sinon, il va se faire faire, puis à plus petite échelle, là, parce que je crois pas nécessairement beaucoup à la CAQ, mais il va se faire faire un peu ce que Pierre Poilievre s'est fait faire avec Mark Carney, c'est-à-dire que il va se faire grappiller des votes par quelqu'un qui pige dans ses promesses électorales.
Tu as la même opinion que Rémi, puis c'est vrai qu'on le voit au fédéral.
Ben oui, bien sûr. Rémi Villemur, toujours un plaisir de te parler.
Merci à vous deux.
On se parle mardi prochain. Je te souhaite un excellent week-end.
Bye bye.
Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. C'est du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis de 8h à 10h avec Jacinthe Varel.
Je sais pas si je fais de la projection, Jeff. Là,
vas-y
mais
donc.
Écoute, on peut-tu juste. On se jase entre deux amis. Il n'y a
ben
pas
oui,
de commentaire politique, mais c'est peut-être de la projection personnelle d'avoir ce fantasme-là.
Ouais.
De voir Éric Duhaime puis Bernard Drainville.
Ben oui.
À nouveau, l'un contre l'autre,
c'est
si on
clair.
Veut, dans des élections. Je sais pas si je suis une mauvaise personne.
Non,
je
non.
sais pas si ça fait aucun sens, si c'est dérisoire, si j'ai un fil qui a décroché. Mais il y a quelque chose qui me fait rire
ben
aussi.
Je souhaite pas
que ce soit du spectacle en politique. Tu le sais,
oui.
Je suis tellement ironique dans mon propos en ce moment parce que je déplore quelque chose à longueur d'année. Puis là, en ce moment, je te dis, il y a quand même une craque à l'intérieur de moi. Personne n'est parfait, là. Mais celle-là, J'aurais un certain plaisir.
Je te comprends. Moi, j'adore analyser la politique avec justement ce que les partis vont promettre, comment
les comportements,
ils vont,
le ton, la psychologie derrière.
Mais Bernard Drainville, quand il met le feu, crime que j'aime ça.
Ah oui, puis il met-tu le feu à Éric Duhaime? Il est rendu à mettre le feu ici, là, à Québec, là, au municipal avec Bruno Marchand.
Exactement. Fait que je suis pareil comme toi, je te
je
rejoins
ne le
à 100%.
Je le souhaite pas là, qu'on soit dans le superficiel. C'est pas ça que je dis.
Gros congrès du Parti libéral du Canada, ça débute ce soir à Montréal. Et pour en parler avec nous, on aura notre chroniqueuse économique Lani Dufour au retour de cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Il est présentement 13h38 minutes. Vous êtes à l'écoute de l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Météo, 12 degrés généralement ensoleillé pour aujourd'hui. 5 degrés, possibilité d'averse pour demain. Alternant soleil et nuage, 7 degrés pour samedi. Et dimanche, 8 degrés. Alternant soleil et nuage. En parlant de dimanche, je vous rappelle notre émission spéciale. Jeff Fortin, Antonine Niacarini, Mathias Turcotte en direct de Drummondville. C'est l'élection à la chefferie de la CAQ. C'est une nouvelle ou un nouveau premier ministre qui sera élu par le fait même, par les 20 500 militants de la CAQ. On est en onde à compter de 15 heures, puis on va recevoir jusqu'à la dernière entrevue. Normalement, ça devrait être jusqu'à vers 17h30. Elle est maintenant chroniqueuse pour nous. On accueille en studio la directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lani Dufour. Lani, comment vas-tu?
Salut, ça va bien?
Ça va super bien. Sur la trotte, tu arrêtes nous voir à Québec parce que tu t'en vas au congrès du Parti libéral du Canada ce soir à Montréal.
Exact. Discours d'ouverture vers 18h ce soir. Ils vont recevoir, je ne sais pas quelle journée exactement, là. Ils sont tout le temps flous un peu avec la présence du premier ministre. Donc, beaucoup de sécurité à prévoir, mais ça va être intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de changements cette semaine.
Est-ce qu'on va vacciner Marilyn Gladue, cette femme qui disait « Les homosexuels, faut les guérir, on les envoie en thérapie ».
Je pense pas qu'elle aura ovation ce soir, non. Est-ce qu'elle sera présente? La question aussi peut se poser parce que c'est tout récent. Le congrès en fin de semaine jusqu'à samedi. On a, au début de la semaine, les partiels qui vont permettre d'avoir probablement des députés libéraux pour remplacer Mme Freeland et Bill Blair.
Exactement.
Mais là, la question, c'est Terrebonne. Terrebonne, c'est pas pour rien que c'est à Montréal, le congrès. Il y en a qui vont faire Terrebonne-Montréal pour continuer d'aller faire la
sortie de
vote.
Il y en a une couple qui vont aller cogner aux portes à Terrebonne.
Ça fait longtemps qu'ils ont commencé, on se le cachera pas. Fait que là, à voir, est-ce que ça sera le Bloc ou ça sera le Parti libéral? Peu importe, ce qu'on sait, c'est que la majorité va arriver au début de la semaine prochaine parce que, justement, on a une nouvelle transfuge qui... rejoint les rangs là, pour monter ça à 171 sièges. Ça nous en prend 172, mais elle ne fait pas l'unanimité. Là. Puis les gens ne se le cachent pas. Ce que j'ai entendu, c'est surtout que cette dame qui a des positions très à droite, là, c'est une conservatrice pure, elle pense aussi à son « phasing out », qu'on peut dire en bon français. Probablement son dernier mandat, elle a été dans l'opposition depuis le début. Donc, tu fais la pas du gain un petit peu, tu t'en vas au gouvernement. Là, M. Carney a eu à défendre beaucoup son choix de l'accepter dans le caucus, notamment pour la position de contre l'avortement, parce que ça, c'est vraiment contre les valeurs du Parti libéral. Elle dit qu'elle va voter avec son gouvernement, avec le parti, mais j'ai hâte de voir comment ils vont gérer. Elle a l'air d'être... je dirais, très facile à faire changer d'idée, pivoter, sort des déclarations à l'emporte-pièce. Écoute, il y a quelques semaines, elle va t'aider pour le budget, quelques mois, là, va t'aider pour le budget du gouvernement. Puis là, tout d'un coup, elle rejoint. Fait que, tu sais, au-delà de « Ah, pour les électeurs, c'est dommage », c'est même pas tant que c'est dommage, c'est que c'est un manque de crédibilité, à mon avis, pour elle.
Est-ce que c'est un détournement de la démocratie?
Écoute, le concept de parti politique, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un détournement de la démocratie, même si oui, tu sais, souvent les gens vont voter pour le chef. On est plus de l'ordre de, ben écoute, il faut quand même respecter nos électeurs, c'est eux qui nous mettent au pouvoir, mais dans certains cas, on le voit à Québec, ça se fait souvent là, de changer de parti. Nous aussi, on change d'idée. Mm-hmm. Fait que, t'sais, faut pas être dogmatique à ce niveau-là. Par contre, il y a certaines limites. Les quatre derniers qui ont changé de parti, ben, qui sont allés vers le Parti libéral, on appelle ça des Red Tories là, dans le jargon. C'est des gens qui ont déjà un petit peu plus un penchant vers le Parti libéral. Souvent, ils sont même libéraux au Québec, mais ils sont conservateurs au Canada.
Puis avec le dernier budget, il y avait beaucoup de tendances conservatrices. C'est parce que l'économie
Marc
était
dans a cette position-là plus à droite que Justin Trudeau. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le caucus actuel, c'est le caucus de Justin Trudeau. Ce n'est pas celui de Mark Carney. Donc, ça va pouvoir créer certains froids dans les discussions, mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va gérer ça. Je pense qu'il n'a pas dû lui promettre un siège de ministre, là, on se cache. Mais c'est plus en termes de « je vais être au gouvernement, je veux vivre cette expérience-là ». C'est pas ce qu'elle a dit, mais c'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout un symptôme du Parti conservateur, bien plus que du côté des libéraux. Eux, en même temps, sont opportunistes, ils saisissent l'occasion. C'est de la politique, à un moment donné, il ne faut pas non plus s'enfarger... Dans les fleurs du tapis, je pense que c'est ça l'expression.
Est-ce que pour le Parti conservateur, on parle beaucoup du leadership de Pierre Poilievre, mais je réfléchis à voix haute après, avec toi, est-ce que c'est plus l'essoufflement de 10 ans dans l'opposition qui fait en sorte, parce que je reprends ce que tu viens de dire avec Mme Gladue, qui fait en sorte que, ouf, ça fait 10 ans que je pose toujours des questions puis je suis toujours fâché, je vais aller prendre une semi-retraite tranquille? Ouais.
Écoute, c'est un mix des deux parce que t'as quand même une bonne base militante conservatrice que je pense qu'ils vont peut-être même pousser vers un vote pour un changement de chef. Mais c'est parce que ça fait des années qu'on cherche un chef qui a un leadership et qui va réussir à nous faire passer vers être le parti du gouvernement. Puis ça n'a pas marché depuis le départ de Stephen Harper. Fait qu'une fois qu'on a dit ça, ben il manque de leadership, ça c'est sûr. On a vu le dernier congrès justement à Calgary. C'était un peu arrangé avec le gars des vues, les votes là, qu'on a vus.
On a fait ça à Calgary, l'ouest du pays. C'était difficile pour justement les conservateurs plus modérés de l'est du pays et du Québec de s'y rendre. Fait que là, on a un beau petit pourcentage pour Pierre Poilievre, mais on s'entend, on
c'est
a joué
ça.
À pièce de théâtre.
Est-ce que c'était représentatif? Non. Moi, ce que j'entends dans les rumeurs, puis on est vraiment dans l'ordre des rumeurs, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en stand-by pour continuer le transfuge, ce qui est historique là, de ce que j'ai regardé, c'est que c'est la première fois qu'un gouvernement minoritaire au pouvoir va devenir majoritaire sans aller en élection. Parce que là, on ne parle pas de une ou deux personnes. On est rendu à 5 et ça pourrait continuer, même après les partiels.
Il y a une rumeur qui dit qu'il va peut-être avoir des gens sur le stage à Montréal en fin de semaine. Fait que tu vas peut-être voir ça de tes propres yeux. Des nouveaux libéraux arrivés, on va scander majorité en allant cogner aux portes de Terrebonne.
Mais ce serait un bon stand-up quand même de l'obtenir là en contrôlant le message. Parce que là, tu es dans une foule de militants. Fait que t'es pas au Parlement, t'es pas à Ottawa, parce que, tu sais, à Ottawa, ça brosse aussi, là, des fois, en période de questions, tout ça, c'est pas tout le temps très glorieux, mais là, on est en terrain sauf, là, tu sais, il y a pas d'enjeu, il y aura pas personne qui va se faire huer, peut-être que ça va arriver à Drummondville en fin de semaine, on sait pas, mais du côté de Mark Carney, on contrôle bien son message.
Ouais, il y a eu des partisans de Christine Fréchette qui ont hué Bernard Drainville, alors dépendamment de qui gagne, peut-être qu'on aura des hués en effet. Hey, Lanny, en terminant, grosse annonce par contre pour le Parti libéral du Canada concernant le port de Montréal aujourd'hui. Ça faisait partie des 5 grands projets qui étaient là, qui étaient autrement dit priorisés avec le projet de loi là, sur les grands
projets. C'est 5, exact. Via ces 5, on avait ciblé des projets. Contrecoeur était en évaluation depuis l'annonce. Là, on profite du fait qu'il est ici pour dire, bon, ben Contrecoeur, on l'accepte, il va faire partie des grands projets, il va avoir des milliards de dollars dedans. Mais chose que je voulais qu'on discute, c'est beau, là, on met ça comme si c'était la nouvelle. Un, c'est pas nouveau, là, on savait que ça s'en venait, ça fait 40 ans qu'on parle de ce agrandissement-là. Mais c'est surtout que ça n'a pas tant fait les manchettes, mais la PDG a quitté, c'est fait... même tassé, puis on refuse de répondre pourquoi, fait que ça... Puis
on est hermétique dans les communications au niveau du Parti libéral du Canada, ça, c'est l'air carré.
C'est le port qui devait répondre de ça, là, le CA est comme en intérim, donc écoute, c'est un mal pour un bien. Le remplaçant là, ou la remplaçante va avoir un beau projet parce que là, on l'officialise. Mais ce qu'on entendait, c'est qu'il y avait de la difficulté à attacher l'argent du privé de DP World, okay. L'entreprise qui doit financer au niveau privé. Fait que là, j'ai hâte de voir comment on va la jouer parce que là, c'est pas tant ressorti dans l'actualité que j'ai vu ce matin. Mais clairement, là, il va manquer le gouvernail en haut pour diriger ce projet-là parce qu'on parle d'un immense projet.
Ouais, il ne faudrait pas avoir fait une annonce pour faire une annonce.
Ben, tu sais, là, on s'entend qu'on profitait de la visite, mais est-ce que ça méritait les drapeaux puis couper les banderoles? On n'est pas rendu là, mais on dit que cet été, on commencerait.
OK.
Ouais.
Fait que ça va être à suivre. Tu vas suivre ça pour nous?
Je vais suivre ça pour vous.
Excellent. L'année du four, bon voyage à Montréal.
Merci. Dans la en métropole.
Auto. Ouais, va mettre un peu de la vite là,
oui,
dans ton temps.
Oui, c'est ça que je vous disais tantôt.
C'est ça, exactement. Puis on vient là avec des nouvelles de ce congrès du Parti libéral du Canada. Toujours un plaisir de te voir.
Salut.
Salut. On termine l'émission dans un instant à Boulevard 101 avec un tour des principales manchettes et également, on vous rappelle, le match du Canadien de ce soir.
Juste et Pascal CV.
13h53 minutes, comme à l'habitude, c'est le retour de Denis Gravel qui suit avec Denis Véro et Audrey. Nous, on sera de retour demain à midi. En attendant, Pascal, pour terminer, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité? Il y a des consultations du tramway, là, ça commence. Des portes ouvertes dans 7 minutes.
Exactement, puis on voyait déjà des gens là, qui étaient intéressés, parce que c'était de 14h à 20h, à l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy sur la route de l'église. Donc, des représentants de la ville qui sont là, c'est CDPQ Infra, du réseau de transport de la capitale, soit la RTC. On veut répondre à toutes les questions des citoyens, que ce soit sur les parcours affectés du RTC, la fluidité du transport, les travaux publics, la gouvernance, les entraves et même les arbres. Tout le monde est invité pour aller poser ses questions. Si jamais on vous répond, on vous répond pas, vous avez des choses à dire, 88-971-102. Tout au long de la nuit même, tiens, si ça vous vient en tête puis vous vous rappelez d'un segment, on va être au courant de comment ça se passe. Je sais que Mathias s'en va faire un petit tour de ce côté-là. Ce qu'on a appris aussi dans les dernières minutes, c'est que le maire Marchand avance que la démolition de bâtiments pour la station d'Youville, entre autres, c'est une preuve que le tramway avance. On y va-tu pas, le fédéral embarque-tu pas, où est-ce qu'on est rendu?
Ça, ben, c'est sa phrase. C'est la preuve que le tramway avance pour tout ce qui se passe.
Exact. Puis il a continué de le dire parce qu'il dit les trois bâtiments qui seront détruits pour la construction de la station souterraine d'Youville du tramway, ça montre que le mégaprojet avance rondement. Il faut parler de rougeole aussi parce qu'on a un premier cas qui est confirmé dans la grande région de Québec et on appelle ceux qui ont été à l'urgence du CHUL du 24 au 26 mars dernier dans le bloc D de l'urgence du CHUL, entre autres, de se rapporter puis de se vérifier aussi. On parle de ceux qui sont allés faire un tour à la clinique Médicaction sur la rue Bouvier le 24 mars. On a une liste de personnes inscrites du CHUL. On va vous contacter, mais si jamais vous voyez que vous avez des symptômes, rapportez-vous aux autorités de la santé. Là. On ne veut pas que ça prenne trop d'ampleur. Et petit clin d'œil à angine de poitrine, mon Dieu, que ça fait réagir cette panne-là. Mais ils en ont profité pour faire quelque chose de bien. Près de 1 000 récoltés pour des organismes communautaires de Lancan pour le dernier billet d'angine de poitrine à Québec, wow, au Pantoum. Donc, deux organismes communautaires d'ici qui vont se partager des dons de près de 1 000 après la mise aux enchères du billet.
J'adore les artistes qui s'impliquent comme ça dans leur communauté. C'est Chapelle ardente pour Roger Brulotte présentement. Ça commence à 11h ce matin, c'est jusqu'à 19h. C'est au stade IGA, l'ancien site du stade Jarry où les Expos de Montréal ont débuté en 1969. Sinon, dans le sport, c'est un énorme match pour la première place de la division Atlantique ce soir entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal. C'est à 19h sur RDS. Est-ce que Cole Caulfield va enfin marquer son 50e but de la saison? Ne manquez pas ce match à 19h dans les autres matchs importants dans la Ligue nationale. Maple Leaf Islanders, Blue Jackets Sabres, Panthers Sénateurs, Flyers Red Wings, tout ça se passe à 19h. Ah, cherchez-moi pas, je pense que je vais être devant ma TV. On va peut-être faire un petit spécial du jeudi en ouvrant une petite bière, pourquoi pas. Pascal CV, je te remercie infiniment d'avoir été là.
Salut, à demain.
À demain, c'est le retour de Gravel qui suit avec Denis Véro et Audrey. Bye bye, guys. Merci d'être à l'antenne de Boulevard 101. What?